I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Place aujourd'hui à un bilan de la trade deadline. Une deadline assez pauvre en mouvements majeurs, mais assez riche en mouvements. Il y a eu beaucoup de mouvements, mais peut-être d'importance un peu moindre que les années précédentes. Donc, les équipes ont préféré faire des petites retouches. Nous, on a fait une petite retouche sur notre 5 de départ. Il y a toujours Constant avec nous cette semaine. Comment ça va, Constant ?
Ça va. Oui, effectivement, c'est pas Kevin Durant, c'est pas Kyrie Irving, la trade deadline cette année. On va dire que les principaux transferts qui auraient potentiellement pu avoir lieu à la trade deadline se sont faits avant, avec le trade de Pascal Siakam et d'OG Anunoby. C'est Masai qui a un peu décidé de gâcher la deadline en faisant ses transferts début janvier ou mi-janvier. Sinon, hein, on est là pour parler d'une trade deadline où effectivement, il y a eu peu de gros mouvements, mais pas mal d'équipes qui finalement ont bougé avec différents scénarios qui se sont profilés en fonction de ces mouvements.
Et puis, j'ai pris sa place à la présentation blasphème, crime de lèse-majesté, mais parce que je voulais qu'Adrien, il ait le temps de parler cette semaine, parce qu'on va parler des Bulls, on ne va pas seulement parler des équipes qui ont bougé, mais des équipes qui n'ont pas bougé aussi, donc comment ça va Adrien ?
C'est exactement là où j'allais aller, effectivement. Bon, ça va, hein, effectivement, mais là on est en train de parler de mouvements, ah, il s'en est passé des choses, bah, à Chicago, il ne s'est rien passé, comme d'habitude, il ne se passe rien. On pourra développer un peu plus autour de ça. Mais sinon, ça va. C'était assez marrant à observer d'un point de vue extérieur, du coup, à tous ces mouvements.
Pour discuter de cette deadline, alors, sachez, chers auditeurs, auditrices, que c'est toujours l'épisode le plus chiant à structurer de l'année parce qu'on peut partir à peu près dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on a fait cette année ? Parfois, on fait des power rankings. Parfois, quand il y a des gros, gros mouvements, c'est beaucoup plus simple. Cette année, c'était assez compliqué. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est regrouper les équipes en paquets d'équipes qui ont, on va dire, des objectifs un peu communs ou qui se rapprochent, et on va discuter donc des équipes en difficulté, des équipes qui n'ont rien fait, des équipes qui sont plus dans le retooling et des candidats au titre ou des contenders pretenders qui ont fait des petites retouches. On va commencer, pour faire un petit peu monter le suspense, par les équipes qui n'ont pas grand-chose à jouer cette saison. Mais avant ça, on vous rappelle de nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée et également sur YouTube. Comme d'habitude, on tente des choses. La semaine dernière, on s'excuse pour ceux qui nous écoutaient sur YouTube. Il y avait quelques petits problèmes de son. On s'adapte encore à la plateforme sur laquelle on enregistre maintenant. Mais ça devrait aller, on croise les doigts, mieux cette semaine. On marque une petite pause et puis on s'envole du côté de Charlotte pour parler des Hornets. Pour discuter de cette deadline, je l'ai donc dit, on va diviser les équipes en quatre catégories. On va commencer par les équipes en difficulté. Alors, je ne les ai pas appelées comme ça dans mon Google Doc, mais je ne veux pas m'attirer les foudres de leurs supporters. Donc, on va dire les équipes en difficulté. On parlera dans cette partie des Hornets, des Pistons et des Wizards. Commençons par les Hornets. Alors là, il y a beaucoup de mouvements. Je prends une grande respiration. Parmi les mouvements importants, le trade de PJ Washington à Dallas contre Grant Williams, Seth Curry et un premier tour de draft 2027. Gordon Hayward a été envoyé du côté d'OKC contre Treyman, Davis Bertans, Misic et deux seconds tours de draft. A rappelé un non-mouvement, celui de Miles Bridges, qui a donc décidé de ne pas lever sa non-trade clause. Il reste du côté de Charlotte. Les Hornets auraient été approchés par plusieurs équipes, mais Bridges a voulu rester dans la franchise. Je cite le Charlotte Observer, suite au soutien de la franchise pendant ses problèmes juridiques. Passons, je mets des guillemets. Enfin, Ishmith, James Booknight et Frank Ntilikina ont été coupés. Pour terminer, il y a aussi eu le buyout de Kyle Lowry. Ce qui fait donc résultat, ils ont joué un match contre Memphis après cette trade deadline. Enfin, le match le plus récent auquel on a pu assister. Pas physiquement, on l'a vu sur notre écran, bref. Parmi les 9 joueurs qui ont joué dans ce match, 5 n'étaient pas dans l'effectif il y a 10 jours. Hein, voilà, donc il y a un gros changement du côté des Hornets. J'ai bientôt plus de salive. Adrien, est-ce qu'on est à l'aube d'une nouvelle étape de leur reconstruction.
Oui, bah déjà, c'est une des premières choses que j'avais notées. Alors, on parlera derrière, mais je les regroupe juste pour ce cas-là, de Détroit, qui pour moi sont un peu comme Charlotte, encore, comment dire, commit, pour faire un anglicisme, sur leur reconstruction. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on en parlait hors antenne juste avant de lancer l'enregistrement sur comment qualifier une reconstruction et les avancées de reconstruction. La question, c'est souvent les pièces que tu as, enfin les joueurs que tu as dans ton effectif qui feront partie de ta prochaine bonne équipe. Du côté de Charlotte, tu as LaMelo et Brandon Miller, et tu le sais, et t'en es encore là. C'est-à-dire que ces deux joueurs-là, tu veux les garder. C'est autour que t'as fait des changements. Et manifestement, bon, du côté de Charlotte, le hors-terrain mis de côté, sur le terrain, c'était pas très reluisant non plus jusque-là. Manifestement, t'as fait des mouvements pour jouer au basket. En tout cas, sur ce premier match, c'est ce qu'on a eu l'impression de voir. C'est-à-dire qu'avec des Grant Williams, des Micić, des Seth Curry, des Trayman, eh bien, on a vu un peu plus de structure, des joueurs qui ont un peu plus, peut-être, je ne sais pas, d'expérience en tout cas en NBA, et on a vu voilà, quelque chose de plus intelligent, de plus structuré, et en tout cas voilà, d'essayer de retrouver déjà un peu de basket, de goût de victoire, et aussi peut-être d'y voir un peu plus clair, de remettre tes pièces justement, comment dire, centrales, LaMelo, le remettre dans le droit chemin, et essayer de mettre Brandon Miller dans de meilleures conditions, parce que c'était peut-être la seule lumière jusque-là dans la saison, Brandon Miller, qui arrivait malgré le marasme des Hornets à montrer de belles choses pour cette saison.
Plus que le changement sur cette année, on peut aussi parler du marasme qu'étaient les Hornets sur les 14 derniers mois. J'ai fait un petit jeu, les gars. Moi, j'ai regardé au niveau des totaux en minutes de la saison dernière. PG Washington numéro 1, il n'est plus là. Terry Rozier numéro 2, il n'est plus là. Numéro 3, Mason Plumlee, il n'est plus là. Gordon Hayward numéro 4, il n'est plus là. Kelly Oubre numéro 5, il n'est plus là. 6e, Jaden McDaniels, il n'est plus là. 7e, Dennis Smith, il n'est plus là. Donc, les 7 joueurs qui ont joué le plus de minutes chez les Hornets la saison dernière ne sont plus dans l'effectif. Constant, est-ce qu'il y a eu un changement de propriétaire, rappelons-le aussi. Est-ce qu'on est en train d'assainir un petit peu cet effectif-là?
Je ne sais pas si on l'assainit, mais en tout cas, on le modifie de manière drastique, parce qu'effectivement, tu as cité les moves qui ont été faits à la deadline, mais il y a aussi eu le trade, il y a de ça quelques semaines, de Terry Rozier, qui a ramené Kyle Lowry. Kyle Lowry qui a été buyout, comme tu l'as dit, mais ça aussi, c'est une volonté de... On va mettre en avant le projet des jeunes, entre guillemets, parce qu'on voit que même si Brandon Miller avait fait de bons trucs depuis le début de la saison, son explosion là depuis quelques semaines est aussi liée au départ de Terry Rozier. Donc du côté des Hornets, on essaye, oui, peut-être d'instaurer quelque chose de différent, de secouer un peu le cocotier en disant il y en a qui ont peut-être été un peu trop installés dans une zone de confort. On va peut-être amener un peu de concurrence et on va peut-être amener un petit peu de profil extérieur pour essayer de changer un petit peu la mentalité. Skip Clifford en a parlé en conférence de presse où il avait l'air dépité du fait qu'on les fait venir pour de la défense et que son équipe ne défend jamais. Donc voilà, je trouve qu'il y a vraiment cet esprit de... On essaye de secouer un peu les choses, on essaye de les transformer. Alors après, tu as parlé du fait qu'ils avaient LaMelo Ball, qu'ils avaient Brandon Miller. Il y a le cas Mark Williams aussi qui était... une lueur d'espoir sur le début de saison, mais qui est blessé, qui sera encore absent pendant les quatre prochaines semaines, d'après ce qui a été annoncé par le staff médical des Hornets. Alors les Hornets, ils sont coutumiers des blessures, mais quand t'as un pivot de 20 ans qui est absent pendant 4 mois quasiment pour des problèmes de dos, c'est un peu inquiétant. Donc oui, ce qu'ont fait les Hornets, c'est essayer d'amener un petit peu de QI basket, parce que malgré tout, que récupère un joueur comme Micić, quand tu récupères un joueur comme Grant Williams, bah tout de suite tu vois les résultats sur le parquet, ça joue un peu mieux, même si ce n'était que les Grizzlies en face. Donc oui, ils essayent de... Pour moi, c'est le début, c'est le premier acte, ou c'est le 0.5 acte d'un changement de mentalité qui s'accompagne de l'arrivée d'un nouveau propriétaire, mais aussi, peut-être, même si j'aime pas le terme, essayer de changer un petit peu la culture des Hornets.
Je suis plutôt d'accord avec vous. Je pense que aussi avec les coupes de James Bouknight, le transfert de Terry Rozier, il y a aussi la volonté de créer un écosystème positif pour mettre en avant les quelques pièces centrales de notre construction. Et on en avait parlé dans l'épisode où on choisissait la franchise parfaite pour Victor, qui date d'il y a à peu près un an maintenant. On avait parlé un peu de cette idée d'un trio quand on fait une reconstruction, en tout cas de quelques joueurs qui sont à mettre en avant dans un projet que tu ne pouvais pas mettre tout le monde en avant. Maintenant, je suis d'accord avec vous, on a LaMelo Ball, on a Brandon Miller, et je suis d'accord avec toi, Constant, Mark Williams avait déjà raté quasiment 50% de ses matchs en saison rookie, là, il est encore blessé, la cheville, le dos, c'est bon. Alors, là, on peut se rassurer.
Un profil hyper athlétique, en plus.
Exactement. Là, on peut se rassurer, c'est que des trois profils, en théorie, c'est le plus remplaçable s'il arrive un problème. Moi, ce qui me rassure beaucoup, c'est qu'avec Micić, et ça s'est vu sur le premier match, c'est l'équipe de NBA qui joue le plus de pick and roll, les Hornets. Mmh. Et les pick and roll des Hornets, c'était une expérience paranormale parfois. C'est-à-dire que quand c'était pas la Melo Ball sur le pick and roll, il y avait globalement souvent du tir, très peu de solutions trouvées, très peu de décalage. Là, ils ont un joueur de pick and roll, un joueur qui sait manipuler les défenses, un joueur qui a su trouver parfois les joueurs dans le coin pour tirer. Donc, ils ont enfin un meneur backup, ce qui est, ça fait très très longtemps qu'ils n'avaient pas eu un meneur backup compétent, les Hornets. Donc, c'est assaini. Après, il y a encore beaucoup de travail parce que ça reste une équipe qui a un déficit de talent, je pense. Mais ça reste un peu plus... En tout cas, moi, c'est un match qui m'a donné un peu envie de regarder les Hornets, un petit peu, ce qui n'était pas le cas depuis très longtemps.
Ouais, et juste pour revenir sur ce que disait Constant et pour finir sur cette histoire de temporalité rapidement, comme voilà, ce sont des moves là dont on a parlé, c'est là où on voulait en venir, qui sont voilà, le tout début, tu l'as dit, version 0.5 Constant de ce changement. On est dans l'année prochaine, je crois, du nouveau contrat de Lamelo. Grosso modo, la timeline se fait autour de ça. C'est-à-dire que on va faire autour de Lamelo, et donc Brandon Miller, mais qui lui est encore au tout début du contrat rookie, donc tout va bien. On va commencer à évaluer voilà nos options. Nos nouvelles options sur cette timeline-là. Je pense que ces moves-là indiquent qu'on en est là, finalement.
Après, ce serait bien de construire autour de la Melo Ball, mais ce serait bien qu'il soit sur le parquet aussi, parce que ces deux dernières années, la Melo Ball, il passe quasiment autant de temps à l'infirmerie parce qu'il a les chevilles fragiles que sur un parquet NBA. Donc, Ben, tu as parlé du fait que les Hornets, c'était une équipe qui manquait de talent. Bah, quand ton pic de loterie est coupé au bout de 2 ans et demi, c'est sûr que tu vas manquer de talent. Hein, parce que là, on a eu... Bon, ça peut faire une transition toute trouvée avec un autre pic de loterie qui a été coupé avant la fin de son contrat rookie. Mais quand tu as des joueurs que tu draftes en loterie et que tu coupes au bout de 2 ans et demi, bah c'est des échecs, je le répète souvent, mais c'est des échecs où tu mets du temps à t'en remettre. Tu rates aussi fort des joueurs comme ça.
Et ce sont des coutumiers du fait. Plus ils ont les drafts des Hornets ces deux dernières décennies globalement sont pas incroyables. Donc effectivement la transition est toute trouvée. Je pense qu'on a fait le point sur les Hornets. C'est une équipe qu'il faudra surveiller, mais c'est une équipe qui, je pense, a retrouvé une structure. Et ce qui est vraiment aberrant, c'est de voir, et on va faire l'enchaînement sur l'équipe, sur les Pistons là-dessus, il y a quand même des équipes, ces deux équipes en l'occurrence, faisaient jouer des joueurs dans leur rotation qui peut-être à la mi-mars seront dans aucune équipe NBA ou seront dans aucune rotation. Donc c'est ça qui est assez terrifiant. Enchaînant donc, la transition était toute trouvée par rapport à Killian Hayes qui a été coupé du côté de Détroit. Alors Détroit, il y a eu tellement de mouvements, je vais pas résumer tous les trades, je vais résumer qui est arrivé, qui est parti. Au moment où on enregistre ce podcast, il y aura peut-être des changements d'ici à la sortie. Les joueurs qui sont arrivés, Simone Fontecchio, Quentin Grimes, Troy Brown Jr., Malachi Flynn, Shake Milton, Evan Fournier. Ceux qui sont partis, Killian Hayes, Joe Harris, Kevin Knox, Bojan Bogdanovic, Alec Burks, Monte Morris. Il faut aussi se rappeler qu'il y a quelques semaines, ils avaient tradé Mike Muscala. Ils avaient vu arriver Mike Muscala et Danilo Gallinari. Ils avaient échangé Marvin Bagley, Isaiah Livers et des seconds choix de draft. Constant, est-ce qu'on a enfin un plan chez les Pistons, oui ou non?
J'arrive pas à lire ce qu'ont fait les Pistons, en fait. Je n'arrive pas à décrypter ce qu'ont tenté de faire les Pistons à cette trade deadline, parce que tu avais quand même ce truc où avec Bogdanovic par exemple, dès le moment où ils l'ont récupéré, c'est-à-dire l'an dernier, on se disait c'est un joueur qui va repartir aussi sec. Finalement, ils l'ont gardé cet été, ils l'ont même prolongé, enfin, il y a eu une extension au niveau de son contrat, et là, au moment où les Pistons semblent trouver un minimum de cohérence sportive, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur les Pistons qui perdent 28 matchs de suite, ça commence à pratiquer du basket cohérent. Il y a Jaden Ivey qui est en train de très bien terminer sa seconde saison en NBA. Ils partent sur OK, on va trader Bogdanovic, on va trader Alec Burks qui a pas beaucoup joué parce qu'il y a eu des histoires de blessures, Monte Morris qui a pas beaucoup joué non plus parce qu'il y a eu des histoires de blessures aussi, mais en partant vraiment sur ils sont partis sur des joueurs qui étaient de qualité pour récupérer des joueurs où on essaye d'entourer, apporter un petit peu de spacing. Vous avez parlé notamment de Quentin Grimes, qui peut être un joueur que tu peux mettre à côté de Cade ou Jaden Ivey. En fait, je suis assez perplexe, pour être honnête, sur ce qu'ont tenté de faire les Pistons. J'arrive pas vraiment à trouver de ligne directrice. J'ai l'impression que il y a des équipes qui ont appelé pour Bogdanovic, il y a des équipes qui ont appelé pour Alec Burks, il y a des équipes qui ont appelé pour Montemoris. À partir de là, ils ont essayé de négocier un deal, mais dans ce qu'ils ont récupéré, j'ai du mal à voir, hormis potentiellement Quentin Grimes, j'ai du mal à voir qui peut s'inscrire. J'ai plus l'impression, tu vois, un peu comme Charlotte, que c'est des moves qui ont été faits pour libérer et pour mettre en valeur les jeunes actuellement, notamment bah, le cut de Killian Hayes pour mettre encore plus en valeur Jaden Ivey et Kate Cunningham, que vraiment pour dire il fallait qu'on se débarrasse de ces vétérans-là.
Je suis un peu d'accord. Ouais, tout à fait. C'est assez flou dans la direction, mais par contre, en termes de temporalité, je pense que c'est plutôt clair. J'ai l'impression que tu avais essayé de passer à l'étape d'après, si on veut, en commençant à mettre des vétérans autour des... Tu avais identifié que tu avais Cade. Bon, tu es très heureux, tu as Cade, ta pièce centrale, Ivey, Duren. Et tu t'es dit, je vais commencer à mettre quelques vétérans autour pour commencer à gagner, à progresser petit à petit avec les Bogda, les Burks, les Morris, comme on disait, même si après, dans les faits, ils ont plus ou moins joué. Finalement, moi, j'ai l'impression, ces moves-là, a priori, qu'on est plutôt en train de reprendre à l'étape précédente. On voit qu'on a encore d'autres gars qu'on veut voir jouer, mais qui sont encore très frais, je pense à Ozar Thompson notamment. Bon, et tu récupères donc Grimes, qui peut-être s'inscrit un peu plus dans cette temporalité-là, à savoir d'un joueur où on a vu des choses, notamment l'année dernière du côté de New York. Là, il était un peu mis au placard. Et tu te dis, allez, je vais lui redonner des minutes à lui aussi. Et peut-être que dans cette temporalité, dans tous ces noms-là, bon, Cade, a priori, est un lock. Ivey devrait l'être aussi. Bon, mais derrière, tu vas identifier ceux qui seront là pour ensuite reprendre un peu plus loin. J'ai l'impression que c'est un petit appui sur le frein du côté de Détroit parce qu'on n'a pas progressé aussi vite qu'on l'aurait aimé. Et du coup, on préfère ne pas trop commit, comme on dit, et puis se garder encore quelques assets pour le court terme, le court moyen terme, on va dire.
Après, moi, beaucoup de ces trades, les gars me posent la question. Effectivement, ils n'ont pas fait une révolution, ils ont fait des petites retouches, mais quand on voit à quel point Monty Williams joue un peu aux apprentis sorciers, moi, je me pose beaucoup de questions sur les rotations. Parce que je vous ai fait le coup des joueurs qui ont joué du côté des Hornets la saison dernière. Là, c'est très intéressant quand tu regardes au niveau des minutes jouées chez les Pistons. Alors oui, le top 5 ne changera pas. Cade, Jaden Ivey, Ozar Thompson, Jalen Duren, Isaiah Stewart, ça change pas. Mais après, en gros, toutes leurs rotations vont changer. Killian Hayes, sixième joueur en termes de minutes, n'est plus là. Septième, Bogdanovic n'est plus là. Huitième, Burks n'est plus là. Marcus Sasser est toujours là, mais autrement, Kevin Knox n'est plus là. Marvin Bagley n'est plus là. Isaiah Livers n'est plus là. En gros, et James Wiseman, bon, voilà. Donc en gros, ils ont, sur les 12 joueurs qui ont plus ou moins composé, 13 joueurs qui ont plus ou moins composé leur effectif, il y a plus de la moitié qui seront plus là. Moi, ça me pose vraiment des questions, surtout quand je reviens sur ce que tu as dit, Constant. J'entendais ça dans le podcast de The Athletic. Tu as l'impression que les Pistons, des fois, ils ont acquis des joueurs, mais il n'y a pas de plan sur la manière dont ils vont les utiliser. C'est-à-dire que moi, quand je vois l'accumulation de profils, oui, on veut peut-être libérer du temps de jeu, du coup, pour le duo Cunningham-Ivy, mais on a rajouté plein de mecs sur le backcourt, donc du coup, on fait comment jouer tous ces mecs-là? Il y a toujours des problèmes sur l'aile, donc il manque toujours de liant entre l'aile et les postes intérieurs. Donc j'ai l'impression qu'ils ont essayé de contrebalancer une intersaison ratée en libérant l'espace, mais en étant plus sur des opportunités de marché sans plan encore très clair.
Je suis d'accord. Il y a le seul profil un peu directeur, enfin, seul lien qui peut être fait entre tous les moves, c'est qu'ils ont essayé d'amener un peu de spacing, même s'ils ont lâché Bogdanovic et Alec Burks. On va dire que avec les moves qui ont été faits avant la trade deadline, avec le fait de se séparer de Marvin Bagley, etc., c'est d'amener un petit peu de plus de spacing. Il a quand même fallu 3 mois et demi pour que Monty Williams se rende compte que le spacing, c'est pas mal en NBA. Surtout quand t'as un joueur comme Jaden Ivey qui est capable de driver aussi fort. Mais c'est ça. Et puis, il y a peut-être un petit point financier aussi. On sait que les Pistons, potentiellement, ils pourraient être intéressés par la Free Agency 2024. Bon, Bogdanovic n'avait que 2 millions garantis pour la saison prochaine. Avec Burks, c'était en fin de contrat. Mais en tout cas, tu es sûr de dégager pas mal de salaires et tu récupères quasiment que des contrats expirants avec Evan Fournier, avec Shake Milton, Troll Brown Jr., etc., etc. Sachant que, au-delà de la Free Agency 2023, t'auras la question de l'extension de Kate Cunningham qui sera éligible à une extension dès l'été prochain, où il va y avoir une vraie question à se poser sur est-ce que tu donnes une extension et si oui, pour quel montant.
C'est le même problème dont on parle tout le temps avec les équipes qui ont pas assez, qui ont été trop dans l'observation et pas assez dans la mise en place de bonnes pratiques, c'est que tu arrives au moment où il faut signer le joueur et tu as toujours des doutes, en tout cas, tu n'as pas une idée très très claire. Adrien, si tu n'as rien à rajouter, faisons un point rapide, très rapide sur Washington, qui est plus une équipe qui a vendu. Donc du coup, qui s'est séparé de Daniel Gafford? qui allait du côté des Mavs. On parlera des Mavs et qui a obtenu Richaun Holmes. Qui... Alors, on a parlé cette semaine tous ensemble du pire joueur dans une rotation NBA. Je me suis dit des fois que Richaun Holmes est quand même pas loin. Il est dans le top 20, je pense. En tout cas, il est pas loin dans ce débat-là. Et Richaun Holmes est un choix de draft, un premier tour. Alors, je vais pas préciser que c'est le deuxième moins favorable parmi celui du Thunder, des Clippers, des Rockets, protégé top 4 ou du Jazz protégé top 10. C'est trop compliqué. Voilà.
Sera le pick d'OKC ou des Clippers, en gros. Voilà.
Exactement. Parce que ce sera probablement pas celui des Rockets ou du Jazz. Est-ce qu'ils auraient dû faire plus de choses, Adrien, ou est-ce que t'es plutôt satisfait de leur deadline? Parce que, faut le dire, il y avait beaucoup de bruit autour de Kuzma.
Il y a des rumeurs ici et là. Après, tu l'as dit, je pense que l'expression que tu as employée juste un peu plus tôt pour Détroit, il va là pour ces trois équipes, pour ce groupe-là, je vais les appeler les cancres, c'est comme ça que je les ai appelés dans mes notes. Disons que ce sont des moves de marché, c'est-à-dire que tu fais aussi avec les opportunités que tu as. Et je pense que du côté de Washington, bon, évidemment, c'est le bordel à Washington, on ne sait pas trop où on va. Pour le coup, en termes de reconstruction, là, tu as essayé l'essai qui avait été fait cette année, c'est de dire on récupère Jordan Poole et on voit ce qu'on peut faire avec Jordan Poole. Bon, manifestement, ça ne se passe pas au mieux. On va dire ça comme ça, on va rester le plus sage possible. Maintenant, ils ont essayé de trouver de la valeur, pour revenir à ta question, Ben, d'essayer de trouver de la valeur sur les assets qu'ils avaient. Je pense qu'ils ont pris les coups de fil, ils ont regardé, ils ne sont pas non plus hyper pressés, c'est-à-dire que ce n'est pas maintenant que tu avais une valeur énorme autour de Kuzma, enfin que tu auras forcément un move plus intéressant maintenant qu'à l'été. C'est-à-dire que tu peux te permettre d'attendre à l'été pour trouver des offres qui sont probablement mieux. Hein, s'ils n'ont pas bougé, c'est probablement qu'ils ont estimé qu'ils auraient mieux. Ils ont quand même transféré Gafford. C'est le gros move qui s'est passé. Daniel Gafford, donc un joueur utile, un joueur qui joue en NBA. On va voir du côté des Mavs, on risque d'en reparler. Un joueur utile, donc dans une temporalité entre guillemets actuelle, pour des assets pick, en l'occurrence, dans une temporalité un peu plus éloignée pour l'année d'après, hein, il me semble. Donc bon. Tu fais pas grand chose. Moi, je pense que du côté de Washington, l'attentisme, entre guillemets, et on en reparlera avec d'autres équipes, il est plus dû, comme tu disais juste avant, au marché et au fait que t'es pas nécessairement pressé. Si t'as pas eu des offres retentissantes autour de tes joueurs qui n'ont pas tous la plus grande cote qu'ils aient eue d'ailleurs dans les années récentes par rapport à leur niveau de jeu, je pense à Kuzma, mais on pourrait parler aussi de Jordan Poole pour le coup. Bon, bah, si les appels étaient pas incroyables, ça te coûte pas grand chose d'attendre la fin de la saison.
Oui, après, on parle, puisque tu parlais des parmi les pires joueurs dans une rotation NBA, Jordan Poole cette saison, c'est-à-dire que là, on est plus sur du compliqué, là, on est sur du très 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 compliqué, petit aparté juste comme ça, mais c'est catastrophique en fait, c'est-à-dire que non seul, en fait, pour décerner parmi les joueurs dans la pire rotation, c'est-à-dire que un joueur peut être mauvais, c'est pas grave d'être nul. Mais le comportement de Jordan Poole, ça, c'est un truc qui... Moi, je suis fan des Wizards, mais je suis aliéné par...
Il s'est fait siffler il n'y a pas longtemps en sortant. Hein. On est arrivé jusque-là.
Hein. Je sais plus c'est contre qui. Je crois que c'est ce match-là où il se fait siffler, il termine à 0 points et 6 fautes. C'est dur, la chute de Jordan Poole, oui.
Alors, peut-être c'est sur sa dernière faute qu'il se fait siffler.
Peut-être que l'année où les Warriors sont champions, où Jordan Poole est excellent, peut-être que c'était une saison de surchauffe. Mais... Et quand même, Jordan Poole, c'est pas un joueur aussi nul que ça. Bref. Mais là où je suis surpris sur les Wizards, c'est qu'on parlait d'opportunités. En fait, on a parlé des Pistons avec Monte Morris. En gros, Minnesota, ils se sont rendus compte, ils se sont dit, merde, on perd quand même pas mal de ballons, ce serait pas mal d'avoir un meneur backup qui est très bon en ratio assist turnover. En gros, la plupart des rumeurs, c'était sur retour de Tyus Jones du côté de Minnesota. Sauf que les Wolves, ils n'avaient plus de first pick parce qu'ils ont tout envoyé pour Rudy Gobert. Du coup, ils n'en avaient pas à trader aux Wizards pour récupérer Tyus Jones. Du coup, ils ont pris la version un peu moins bien qu'est Monte Morris. En plus, c'est Tim Connelly, qui est l'ancien GM de Denver, donc qui fait revenir un de ses anciens joueurs qu'il a drafté en plus de ça, contre des second tours. Sauf que les Wizards, j'ai du mal à comprendre la stratégie puisque Tyus Jones est free agent l'été prochain. C'est-à-dire que, hormis si tu es sûr que le joueur va prolonger, même si ça n'était pas un premier tour, tu le perdras contre rien du tout durant l'été. Et il y a eu la même situation avec Dylan Wright, qui était un joueur qui aurait pu être courtisé de par sa qualité et de par son contrat très team friendly, et qui finalement n'a pas été échangé et qui sera lui aussi free agent l'été prochain. Alors que Kuzma, c'est un joueur un peu plus longue durée, c'est-à-dire que tu peux très bien te repointer dans un an avec la même situation autour de Kai Kuzma. Il y a eu la situation, il y a eu quelques rumeurs potentiellement sur Denis Avdia qui viennent de prolonger. Donc, c'est très rare de transférer un joueur juste après l'avoir prolongé, avant que son second contrat débute. Il me semble que la dernière fois, c'était 2008 ou quelque chose, une année proche de 2008. Donc voilà, les Wizards, là où je suis un peu plus perplexe, c'est que il y avait deux joueurs potentiellement qui pouvaient être courtisés et que tu n'as pas transféré malgré le fait qu'ils seront free agents cet été. Donc potentiellement, tu peux les perdre contre rien. Et on parlait de Killian Hayes, on parlait de James Booknight comme joueur de loterie qui ne verront pas le deuxième contrat. Je pense que Johnny Davis est un bon petit candidat aussi pour ne pas avoir un deuxième contrat et être coupé avant la fin de sa quatrième saison.
J'ai trop rien à rajouter. C'est vrai que dans un marché où il y avait des équipes à la recherche de backup meneurs, en avoir deux dans ton effectif, comme tu l'as dit Constant, qui sont free agent et rien en tirer, c'est un peu problématique. Surtout quand on sait, je pense, la valeur non négligeable qu'a Tyus Jones auprès des front office NBA. Pour ce qui est de Kuzma, je suis d'accord, ils pourront revenir plus tard. Après, j'ai lu beaucoup de choses par rapport à « ils ont perdu leur pivot titulaire », etc. C'est une défense catastrophique, même avec Daniel Gafford, et malgré certaines limitations de Daniel Gafford, on va y revenir plus tard. Donc, je suis pas persuadé que le fait de ne pas avoir un pivot vraiment à mettre sur le terrain soit vraiment quelque chose de majeur pour eux. Je crois pas que ça soit. Ça, c'est un truc que tu peux aller trouver cet été. Je sais pas. Mm. Ou même à la draft. Enfin, c'est pas quelque chose qui m'inquiète personnellement. Adrien, c'est ton moment.
Nous y sommes.
Chicago. Alors, on a notre rubrique les attentistes. Donc, ce sont les franchises qui étaient peut-être dans les rumeurs, mais qui n'ont pas fait grand-chose. Dans cette rubrique, on a Chicago et Atlanta. Chicago, Adrien. Ah, je t'annonce qu'il n'y a rien de noté. C'est écrit « Demande à Adrien ». Du coup, je demande à Adrien, parle-nous de Chicago.
Bon, bah déjà, il ne s'est rien passé. Hein. Je pense que tout le monde est au courant. Il ne s'est rien passé, comme il ne se passe rien à Chicago depuis un moment. Et évidemment, ça attire... disons que tout le monde n'en est pas ravi. Et c'est normal. Alors, je vais essayer de ne pas ergoter pendant trop longtemps là-dessus. Mais je pense que Atlanta comme Chicago, d'ailleurs, on a deux situations qui sont différentes, mais un constat qui est peut-être relativement similaire. Je sais que je radote beaucoup sur cette histoire de temporalité, mais pour moi, on est vraiment là-dessus. On est, je vais parler surtout de Chicago, on est sur un projet, on en parle, en veux-tu, en voilà, qui a démarré avec cette histoire de Lonzo, Lavine, DeMar DeRozan et Vucevic. Que ce soit, en fait, en NBA, il y a toujours ces deux plans. Soit on joue le titre, soit on fracasse tout, on reconstruit. Et on joue, on en est un peu là, commençons Charlotte, Détroit et Washington. Alors déjà, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que ce n'est pas forcément des situations enviables, on vient d'en parler. Mais justement, quand tu as des équipes qui sont déjà avancées en termes de reconstruction, qu'on commençait à faire des choses, et je pense que notamment, on les a pas citées, mais il y a aussi les Spurs de l'autre côté, ce type d'équipe qui sont bien contentes. Et que d'un autre côté, tu n'es pas à 1, 2, 3 moves près d'être véritablement contender, et c'est valable aussi pour Atlanta du coup, est-ce que tu es vraiment dans une situation où c'est important de faire des moves? Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, tu as des joueurs qui ont une certaine valeur sur le marché. Manifestement, Caruso en avait et les Bulls étaient trop gourmands. Trop par rapport à quoi? Bon, peut-être que ça sortira à un moment. La vraie question, voilà, c'était qu'est-ce qui était demandé? Est-ce que tu étais vraiment aussi obligé de lâcher Caruso? C'est-à-dire que si tu lâches Caruso, si tu lâches peut-être Demar, où il y avait quelques rumeurs, mais que tu gardes Zach, bon, qui est blessé, mais Zach et Vucevic, avec l'effectif que tu as actuellement, tu vas continuer à gagner des matchs, à gagner trop de matchs par rapport aux équipes qui sont dans des vraies reconstructions, qui ont vraiment déconstruit, même carrément, pour pouvoir avoir leur pic. Donc, je ne suis pas sûr que tout ça avait un grand intérêt. Alors, bien sûr, il y a quand même quelques problèmes toujours côté Chicago. Moi, le premier truc que je regrette, et je pense que tout le monde le voit, c'est cette histoire de profondeur. Il y a peu de joueurs qui ont la confiance maintenant de Billy Donovan et les profils ne sont pas forcément hyper complémentaires les uns avec les autres. Mais disons que parfois, je pense que ce n'est pas si pire, entre guillemets, de continuer de jouer. Oui, le ventre mou, ce n'est pas forcément la situation enviable pour tout le monde, mais tu continues de jouer avec tes joueurs, ton équipe à laquelle, en lesquelles tu as cru à un moment donné. Tu vas jusqu'au bout de ça et je pense que c'est la temporalité d'après que tu vas jouer, enfin le timing d'après, entre guillemets. Je ne sais pas exactement comment ce sera. Et peut-être que, parce qu'il y a aussi une troisième voie que je n'ai pas encore évoquée, que la voie, entre guillemets, à la Nets, à la Knicks, de retrouver à un moment donné une vraie compétitivité sans passer par une grande reconstruction est aussi une voie possible. Voilà, tu as appuyé sur le bouton pause, tu continues d'appuyer sur le bouton pause, c'est frustrant pour les fans, c'est vrai que ça l'est, surtout quand on voit des matchs comme hier soir, le dernier qu'on a vu, le Chicago Magic. Mais écoutez, moi, c'est pas une situation qui me semble aussi ubuesque que ce que certains veulent bien dire.
Et deuxième question, Adrien, je reviens vers toi, Constant, après. Ce bouton pause, selon toi, est-ce que c'est l'été prochain que la free agency démarre? Est-ce que c'est l'été d'après?
Bah ça, on n'en sait trop rien. C'est-à-dire qu'il y a des bruits un peu ici et là. Pour le coup, j'ai pas la bonne réponse. C'est vrai qu'on avait l'impression que peut-être que tout pouvait basculer avec Zach cette année. Vraiment, c'est ce, que, ce qui semblait arriver. Malheureusement, il y a la blessure et ça a remis tout ça en question. Bon, voilà, t'as aussi t'as 60 millions sur le flanc sur deux joueurs. Et forcément, dans n'importe quelle équipe, tu mets 60 millions qui jouent pas. Forcément, t'es moins bon et je suis pas sûr qu'avec les pièces qui restent au-delà de ça, tu aies de quoi faire des moves qui te rendent soit meilleur, soit qui remettent tout en question. Donc, tu es un peu forcé aussi. La main est un peu forcée pour le front office, je pense, d'attendre. Donc, on verra cet été. Justement, ça dépendra probablement des négociations, des coups de fil et de la valeur de certains joueurs. C'est vrai que t'as aussi la problématique et c'est aussi un des points. Hein. Je finirai là-dessus parce que ça fait un long monologue, mais. La problématique Vucevic qui a il y a eu un trade où beaucoup a été lâché pour Vucevic et peut-être plus un joueur pour lequel tu vas pouvoir récupérer grand chose, donc ça te met aussi dans une situation assez inconfortable.
Constant, je t'ai vu beaucoup, c'est vrai que Vucevic ça fait mal, en regardant encore les salaires de Chicago là avant de commencer, Vucevic ça fait mal.
Non mais Vucevic ça fait mal, mais Adrien l'a très bien dit, il y a 45% du cap qui sont sur deux joueurs qui jouent pas, genre franchement, vu la situation des Bulls, être en 25-28 alors qu'ils ont débuté en 4-14 et qu'il y a 45% du cap qui joue pas, c'est presque bien. Franchement, c'est presque bien. Ils ont en plus... Bon, on peut dire ce qu'on veut, oui. Alors, si vous écoutez un peu ce que je peux dire, enfin, ce que j'ai pu dire par le passé, vous savez que moi, justement, je suis très reconstruction au titre. Cet entre-deux, moi, ça me fait pas spécialement rêver. Mais les Bulls, bon, bah... La saison aurait tellement pu partir beaucoup plus salement que ce qu'elle est en train d'être actuellement que tu te dis, bon, c'est limite une réussite. T'as la progression de Coby White cette saison qui est pas loin d'être MIP cette saison. Donc voilà, c'est intéressant. Après, effectivement, t'as parlé de quand est-ce que ça va exploser. Moi, je pense que ça peut exploser à la draft. En gros, si t'as une équipe potentiellement, je sais pas, genre, imaginons, je dis pas que ça va arriver, hein, mais imaginons Raphaël Stone. Qui est le GM des Rockets, il est assis sur son fauteuil, il fait « j'ai le pic des Nets, moi être dans le ventre mou, ça m'intéresse pas trop, moi je veux me renforcer, est-ce que j'irai pas chercher Zach LaVine ?» C'est une théorie, hein. Je sais pas que ça va arriver, mais visiblement, comme le front office des Rockets a l'air d'être plutôt actif, potentiellement, mais je pense qu'entre la free agency démarre, plus le cas Zach LaVine, où en fait, sans la blessure, est-ce que Zach LaVine n'aurait pas déjà été échangé aussi ? C'est peut-être une question qu'on peut soulever. Mais puisque Zach LaVine s'est blessé et qu'il est out jusqu'à la fin de la saison, bah ça ne servait à rien de le transférer. Si jamais tu veux récupérer Zach LaVine, bah récupère-le à la draft, si tu es une équipe intéressée par Zach. Donc voilà, après le reste, du côté des Bulls, ils avaient le feu vert de la part du proprio pour reconstruire. C'est Karnišová qui a fait « non, je n'ai pas envie ». Voilà, écoute, on verra bien ce que ça va donner du côté des Bulls. Il y a le cas Caruso, effectivement, où tu te vas avoir un nombre d'acheteurs pour Caruso assez fou. Après, t'as peut-être pas eu l'offre que tu voulais, t'as peut-être été trop gourmand, mais Caruso, il a encore un an de contrat, les offres, elles seront encore là à la draft ou elles seront encore là à la deadline l'été prochain pour Caruso. C'est pas un joueur qui va baisser de valeur dans aucun monde, même si cette année, il est en grande réussite à 3 points. Donc oui, les Bulls, écoute, ils sont toujours dans cet entre-deux, mais je pense que fatalement, il me semble qu'on en avait parlé dans la preview, la free agency de DeMar DeRozan va faire un peu bouger les murs et va pousser à avoir une direction plus claire que le statu quo actuel.
Adrien, le mot de la fin. Je n'aurais rien à dire sur les Bulls, ajouté à ta grande expertise.
C'est trop. Non, mais oui, effectivement, ce que j'avais pas dit, que Constant a très bien dit, effectivement, t'as aussi, t'es très heureux d'avoir Coby White, qui est un bon joueur, donc je pense qu'effectivement, à l'été, tu vas pouvoir faire un état du en fonction de ce que va choisir Demar et en fonction des appels que tu vas avoir. Voilà, ça rejoint un peu ce que je disais avant, Constant l'a très bien dit. T'étais pas forcé de faire les moves maintenant, ça allait pas changer drastiquement ta saison. D'envoyer Caruso dans une autre équipe pour récupérer quelques joueurs auxquels tu n'aurais pas forcément pu donner des minutes en plus ou des ballons selon le profil que tu récupérais, parce que bah, on le sait, ça a été aussi la grande question de Coby White, Patrick Williams dans une autre mesure, difficile à développer quand c'est DeMar DeRozan et Zach LaVine qui ont tout le temps la balle dans les mains. Bon bah voilà, au moins Coby White c'est une réussite, on va se contenter de ça. À Chicago pour le moment, c'est voilà, on est obligé de patienter malheureusement.
En plus, t'as DeRozan, Free Agent et Patrick Williams aussi, où il faudra régler la question salariale cet été, qui est un choix à faire et qui peut aider aussi à trouver un semblant de direction.
Deux choix à faire, enchaînons. Adrien parlait de son équipe. Ce n'est pas la mienne, mais sinon c'est l'aider. Parlons des Hawks, qui étaient dans beaucoup de rumeurs par rapport à un potentiel échange de Dejounte Murray. Dejounte Murray est resté. L'attentisme des Hawks, Est-ce que c'est le calme avant la tempête, Constant ? Oui, je ne vais pas partir en premier là-dessus, je vous laisse déjà parler. Est-ce que c'est le calme avant la tempête, Constant ?
Les Hawks. Les Hawks. Enfin, on partage le même amour, toi et moi, Ben, pour les Hawks. Les Hawks, bah écoutez, je vais pas griller le monologue que va faire Ben, mais quand t'as enlevé les murs, que t'as refait la peinture, que t'as changé les fenêtres, les rideaux, t'as juste gardé le mur porteur et que la maison elle tient toujours pas, c'est qu'à un moment c'est peut-être remettre en question le mur porteur aussi. Donc non, les Hawks, écoutez, ils ont décidé de commit, ils ont décidé de rester sur leur position. Écoutez, je pense que c'est une équipe, voilà, on a cité les Bulls comme potentiellement une équipe qui peut exploser. Je pense que les Hawks, c'est encore une situation où c'est un peu le jusqu'à quand. Je pense que les Hawks, c'est, pour moi, c'est un peu dans une autre mesure parce que l'équipe en question a été bien plus, a rencontré bien plus de succès, quoique les Hawks sont allés plus loin. C'est, pour moi, c'est un peu le Jazz de Mitchell, en gros. C'est, on enchaîne les années, on enchaîne les déceptions. On a fait une belle année, la première, avec le vrai projet. Que ce soit les Hawks ou le Jazz. Et ensuite, on va de déception en déception d'année après année. Et il y a un moment où ça va péter. Donc voilà, les Hawks, bah écoutez, ils sont contents de la saison de Jalen Johnson. Trae Young est en train de montrer à tout le monde que peut-être il aurait dû être All-Star où il enchaîne les 30-10. Et bah, c'est une saison des Hawks habituelle. Ils vont faire play-in. Et puis voilà, quoi. Donc, les Hawks, c'est en stand-by. Les Hawks, c'est dur, les Hawks, parce que c'est une équipe qui, en plus, a déjà posé ses billets, en plus de ça. Contrairement, par exemple, à Chicago, qui, si Chicago souhaitait faire une offre Godfather pour un joueur, il pourrait encore le faire, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
Que rajouter par rapport à ça ? Non, en vrai, Constant l'a dit de manière très imagée, je vais le dire peut-être de manière plus directe. T'as grillé trois coachs, t'as grillé la carte héliocentrisme, t'as grillé la carte du deuxième porteur de balle, même si des gens ne t'aimeraient pas, et pas parfait. T'as grillé beaucoup de cartes. Bon, je pense, moi, ma take, alors elle est pas folle, hein. Mais je pense qu'à l'opening night 2025, Trae Young est plus chez les Hawks. Ça donne 18 mois, c'est large, mais je pense que c'est une équipe qui risque de bouger énormément. Par rapport à leur non-mouvement, je suis pas trop, comment dire, je suis pas si surpris de ça qu'ils aient pas bougé, parce que je pense qu'il y a quand même la volonté, et les Hawks, souvent un discours qu'on voit du côté de la fanbase des Hawks ou même du front office, c'est l'idée qu'il faut donner un peu plus de temps à chaque fois, c'est-à-dire que en vrai, sous Quinn Snyder, on a vu qu'un bout de saison pour l'instant. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on dit toujours ça du côté des Hawks, mais que le résultat est toujours le même. Mais ils ont dit qu'on a vu qu'un bout de saison, il y a eu des timide changement au niveau de la prise de tir à 3 points, etc. Mais le problème, c'est que tu as toujours des joueurs qui aiment prendre du tir à mi-distance, donc tu peux pas changer ça, fondamentalement. Par rapport au projet à long terme, je pense qu'ils sont en stand-by. Je pense qu'il est arrivé un moment où les choix qu'ils ont pas voulu faire vont s'imposer à eux. Je pense à Clint Capela, à Onyeka Okongwu. Ça fait 2 ans que ce choix aurait dû être fait. Tu payes pas un backup avec cet argent-là si à un moment, tu décides pas le titulaire de l'éjecter. Clint Capela, il lui reste une saison de contrat en plus. Je pense que c'est un joueur qu'il faudra aller, même si j'entends beaucoup de personnes qui vont me dire que Onyeka Okongwu est moins bon que Clint Capela, et j'entends que Onyeka Okongwu est peut-être un joueur théorique sur certains aspects, mais un des gros problèmes des Hawks, c'est l'incapacité à faire des choix. Il va falloir faire ce choix-là, et je pense que c'est une équipe à surveiller, parce que c'est une équipe qui sera plus pareille. Je dis l'opening night 2025 parce que je pense que, selon moi, cet été, ils vont écouter les offres pour Trae Young, mais qui risque d'avoir un problème de trade pour Trae Young parce que, et je m'excuse Adrien, je fais beaucoup plus long que toi sur les Bulls, donc peut-être que j'aime plus les Hawks que t'aimes les Bulls, je sais pas. Non, en tout cas, en fait, Trae Young, entre son contrat, la particularité de son profil, le fait que c'est un joueur qui a beaucoup d'importance pour la fanbase, de par le fait qu'il est une fanbase, la fanbase des Hawks considère qu'il est peut-être mal considéré par une partie des fans NBA, etc. C'est difficile politiquement pour les Hawks de l'échanger contre un truc qui est pas un jackpot de milliardaire, et ils auront pas cette offre-là. Donc, je pense que ça bouge pas, ça va commencer à bouger cet été et ça explose dans les 18 mois.
Ouais, je vais pas rajouter grand-chose. Hein. Déjà, première chose, si tu changes tout le temps de coach, c'est normal que tu vois que des bouts de saison. Jusque-là, c'est à peu près logique.
En plus, c'est un bout de saison plus un autre bout de saison, parce que Quinn Snyder, oui, il arrive à peu près à demi-saison l'an dernier. Donc normalement, ça, 0 plus 5 plus 0 plus 5, ça fait 1. Donc,
Non, mais effectivement, mais au-delà de ça, effectivement, je vais pas faire long. Ils sont pas satisfaits, un peu à la manière des Bulls, des offres qui ont été probablement offerte pour leur pièce disponible sur le marché, la grosse pièce qui était déjantée. Et comme vous l'avez dit, ils n'étaient pas obligés de faire les choix maintenant. Les choix vont arriver, tu vas être obligé. Tu n'étais pas nécessairement obligé de les faire à cette mi-saison. Faudra faire le bilan, que ce soit cet été, à celui d'après. Mais voilà, il n'y avait pas d'urgence. Donc, ce n'est pas très surprenant non plus, même si on peut trouver ça assez cocasse, le fait que ça arrive très souvent à Atlanta, qui est, entre guillemets, un des gros noms attendus sur le marché. On se dit, ah, celui-là, il va être trade. Et puis, bah, ça ne bouge pas hein, du côté de l'Atlanta. Donc, voilà, on a des schémas qu'on aime bien répéter à Chicago et à Atlanta aussi, manifestement.
J'y dirais juste une dernière chose, et je voulais le dire de la partie sur les Hornets, pour pas que ce soit trop long sur les Hawks, il faut faire un grand référendum sur la manière dont on traite certaines équipes qu'on a souvent tendance à qualifier de talentueuses, chez qui le talent se résume soit à des flashs, soit à des positions de draft. C'est-à-dire que pendant 5 ans, j'ai entendu que cet effectif des Hawks était talentueux, là où j'ai entendu que l'effectif des Hornets était talentueux, et la seule base de cela, c'était les positions de draft des joueurs dans l'effectif. C'est-à-dire qu'en fait, après plusieurs années de Trae Young, en fait, si on fait, et là, pour une fois, je vais limite défendre Trae Young, si on fait le bilan des mecs qui l'ont accompagné sur ses premières années, DeAndre Hunter est un joueur injury prone qui a pas su confirmer, John Collins, c'est un joueur de rotation NBA, Cam Reddish a déçu, il y a Jalen Johnson, on va attendre un peu plus de voir dans un futur proche, DeJounte Murray, c'est une déception, donc en fait, c'est aussi un effectif qui a jamais été si talentueux que ça. Je pense que c'est à remettre en question avec ce qu'on a pu dire d'Hornets, c'est une période qui ont en fait, quand tu fais le bilan de ces joueurs-là une fois tradés, tu rends compte où, avec plusieurs années d'expérience dans l'effectif, tu rends compte que ce sont des joueurs qui n'étaient pas à la hauteur du talent qu'on leur prêtait. Donc ça, c'est un truc à garder en considération. Enchaînons sur.
Parlant de Sporting Cast éclaté.
Enchaînons sur les Mavericks, les gars. Alors, beaucoup de trades aussi. Il y en a un petit avec OKC que je me garde pour plus tard pour vous demander ce qu'on a pensé constant pour justement obtenir ce draft. Preview de la suite. Alors, les deux grands mouvements du côté des Mavericks, ça a surtout été du coup d'acquérir ces lots de pans du trade dont j'ai parlé tout à l'heure, PG Washington, et aussi du coup d'aller chercher Daniel Gafford. Constant, t'en penses quoi de ce trade du côté des Mavericks? Avant d'enregistrer, tu nous parlais des adversaires qui pourraient inquiéter OKC et tu as plutôt parlé positivement de cette équipe de Dallas, si mes souvenirs sont bons.
Oui, on parlera d'OKC après, mais vite off. Mais pour moi, c'était quand je regardais les match-ups potentiels au premier tour, Dallas, c'était l'équipe que j'avais envie d'affronter. Alors, ça peut vous paraître bizarre d'avoir envie d'affronter Luka Doncic en play-off, mais disons que au-delà de l'aspect Luka Doncic, ce que je voyais, la construction de l'effectif de Dallas était l'une des équipes qui pouvait le plus avoir de faiblesses là où sont les forces du Thunder. Ce qui est moins le cas avec l'arrivée de Daniel Gafford, avec l'arrivée de PJ Washington. Quand je parlais de supporting cast éclaté pour les Hawks ou pour les Mavs, c'est parce que c'est souvent un argument qu'on peut relayer pour défendre le manque de succès, que ce soit Trae Young ou Luka Doncic, c'est faut voir les joueurs qu'on leur a mis à côté durant leur 4 ou 5 premières années dans la ligue. Là, du côté de Dallas, bah en fait, Dallas c'est quand même un aveu d'échec terrible sur leur été quoi. C'est que tous les joueurs quasiment qu'ils ont fait revenir cet été, ils les ont dégagés. C'est-à-dire que Grant Williams, que moi j'étais l'un des premiers à dire que je trouvais que c'était une très belle signature, parti au bout de 6 mois. C'est Curry qu'ils avaient fait revenir, parti au bout de 6 mois aussi. Donc c'est un peu un aveu d'échec terrible pour le Nico Harrison. Et même du côté de Dallas, Luka Doncic en avait parlé lorsqu'il a été interrogé sur le trade, il a dit « j'ai enfin mon pivot backup ». Donc tu sens que du côté de Luka, c'était aussi quelque chose que lui souhaitait. Effectivement, voilà, bon, le premier match, le seul match qu'on a vu pour l'instant de ces Mavs nouvelle version, c'est contre un Thunder apathique. Donc, on va attendre un peu plus avant de trouver et de tirer des conclusions. Mais tu vois qu'avec Gafford et PJ Washington, tu amènes de la verticalité et que globalement, quand tu amènes de la verticalité à Luka Doncic, il va savoir en faire quelque chose. Donc oui, je trouve que cette équipe des Mavs, c'est une équipe qui s'est renforcée. Je pense que c'est une équipe qui est meilleure après la deadline que ce qu'elle était avant la deadline. Ils ont ramené de la verticalité, ils ont ramené un petit peu de rebond, un petit peu de viande. On va voir comment ça va se passer avec le retour de Derek Lively, parce que les Mavs, quand Derek Lively et Luka Doncic sont présents, ils ont un très bon bilan. Il me semble que c'est 20 victoires et 12 défaites. Donc ça va dépendre pas mal de Derek Lively, mais on va dire qu'avec Gafford, avec PJ Washington, si tu veux passer sur des 5 plus petits, tu peux répondre à des absences potentiellement de Lively tout en ayant de la verticalité.
Ouais, pour moi, verticalité, Constant, c'est un peu le premier mot, le maître mot de cette histoire, parce que J'ai l'impression que cette saison, bon, il y a les cas des échecs, notamment celui de Grant Williams, mais commence à sortir des histoires comme quoi ça s'entendait pas très très bien dans le vestiaire. Donc peut-être que la main était un peu forcée, mais en tout cas, du point de vue des acquisitions de Dallas, on a identifié avec un Derek Lively justement peut-être meilleur que ce qu'on attendait à ce début de saison, mais on a identifié l'intérêt enfin à Dallas d'avoir une vraie menace de lob, un rim runner, tout ce qu'il y a de plus classique, qui n'est pas forcément les plus talentueux, mais qui fait le boulot de rim protection et d'aller attraper les lobes de Luka Doncic. Et donc dans ce profil-là, quelque part dans la ligue, il y avait un gars qui était disponible, c'est Daniel Gafford, qui est peut-être un peu plus confirmé justement que Derek Lively dans une optique de play-off, d'avoir peut-être un mec qui aura moins de risques de faire des erreurs de jeunesse. Donc voilà, ça semble répondre à cette chose-là. Et PJ Washington, moi je trouve aussi que c'est une très belle acquisition pour le coup. C'est un joueur, bon nous déjà à Chicago, il nous met tout le temps, il nous plante toujours 43 points, on a l'impression de jouer contre les Splash Bros, mais je pense aussi que PJ Washington, dans une équipe un peu mieux équilibrée comme ça, et justement peut-être parfois à côté d'un Gafford, quelqu'un comme ça, peut rejouer de manière un peu plus naturelle que ce qu'il faisait aux Hornets. Tu vois, un défenseur long, comme dit Constant, tu peux faire des small ball 5, il est stretch aussi, il écarte le terrain. Voilà, moi je pense que je trouve ce retooling, entre guillemets, ce réoutillage du côté des Mavs, peut-être un peu forcé autour de Grant Williams, mais en tout cas, plutôt bien senti dans les profils qui ont été visés et qui ont été acquis, même si ils ont fait un peu de la magie hein, quand même pour récupérer ces joueurs-là. On ne sait pas trop comment ils sont débrouillés, mais ils ont réussi, donc bravo à eux.
PJ Washington ne protégera pas le cercle.
Non, bien sûr.
C'est ça, je pense que en NBA, PJ Washington, c'est le mec où je suis le plus loin du consensus, je pense. Partout NBA, c'est-à-dire que...
Et quel est le consensus, selon toi?
Bah, c'est en gros ce que tu as dit, je pense. C'est-à-dire que... Alors déjà, l'idée de PJ Washington shooter, quand on regarde, c'est surtout un shooter de tir d'opportunité. Il prend ses tirs à 3 points quand il est laissé grand ouvert et il ne les met pas à un niveau qui force les défenses à close-out violemment. Alors ça dépend des années. Peut-être qu'avec Luka, il aura plus de shoot ouvert. Probablement, très probablement. Mais il faut les mettre... Moi, ma grande take que j'ai mise sur mon préparation Google Docs, c'est que je pense que le tir de PJ Washington à 3 points, c'est limite un des éléments les plus importants de la course au playoff à l'Ouest cette année, ce qui n'a aucun sens. Je dis en dehors des superstars, je dis bien que en dehors des superstars, genre le tir à 3 points de PJ Washington, si les Mavs ont assez de confiance pour le laisser dans le corner et qu'ils sanctionnent, ça ouvre complètement le terrain pour les Mavs et ça aura une vraie différence pour eux. Le fait est que je suis pas super confiant vis-à-vis de ça. Défensivement, c'est un mec qui protège pas assez le sac pour être small ball 5. Et le problème, c'est que comme tu as maintenant 48 minutes de Derek Lively et de Daniel Gafford, bah en fait, s'il met pas ses tirs, alors on a déjà vu les Mavs l'utiliser sur le premier match sur du pick ou spin pick and roll, etc. Mais s'il met pas ses tirs, j'ai vraiment peur que son utilisation offensive soit très compliquée. Dernière chose, je parle trop longtemps. Défensivement, je me demande, il défend sur qui, en fait? Parce que le grand problème de PJ Washington, c'est qu'il peut pas défendre en tant que 5, et les 4 rapides ailiers, il les défend pas. Il est bon pour défendre sur les Siakam, il défend sur qui, des fois? J'ai vu qu'il défendait souvent sur Siakam, par exemple, c'est un profil qui peut lui convenir. Donc, pour moi, c'est un joueur qui a une partie du destin de playoff de Dallas entre ses mains. Genre, selon la version qui a atterri de PJ Washington, bah, Dallas, c'est peut-être une équipe qui sort premier tour, une équipe qui en passe un, voire deux.
Après, c'est le choix de Dallas. Hein. Dallas, on est plus sur une équipe qui va gagner en marquant des paniers plutôt qu'en stoppant les adversaires. Hein. Globalement, ça change pas beaucoup l'identité. Tu commites une nouvelle fois. Après, voilà, t'as Kyrie, Luka. Tu vas jouer à ce jeu-là. Après, je sais pas si ça suffit pour en faire des contenders, mais en tout cas, ils ont identifié. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'ils ont identifié ce qu'ils voulaient et ils essayent de le faire. Ils vont voir jusqu'où ça les mène dans cette idée-là.
Constant. Ouais. Étonnamment. Non, oh, oui. Constant.
Non, mais de toute façon, j'ai retenu un truc, un de tes arguments, Ben, je le ressortirai quand on parlera d'OKC. Parce que, alors là, c'est PJ Washington, c'est peut-être l'un des X-Factors les plus importants de la conférence Ouest. Josh Giddey à 3 points en termes de X-Factor de la conférence Ouest. Je peux te dire que là, c'est plus X-Factor. Là, c'est, faut trouver autre chose. Là, c'est le Z-Factor. Là, ça change, ça débloque pas mal de trucs. Non, mais après, Dallas, c'est juste dommage d'avoir cramé le peu d'assets qui te restait pour compenser le fait que ton été était pourri, quoi. C'est juste
que c'est pas trop. C'est ce qu'on peut lire à droite à gauche.
C'est pas que
c'est là où on revient sur la temporalité.
C'est pas que c'est trop, c'est qu'ils étaient obligés de le faire parce que en l'état, alors déjà ils ont eu une cargaison de blessures, ça n'aide pas. Mais en l'état, ils étaient obligés de faire ça. Mais c'est juste dommage que je pense que c'est des moves au moins Daniel Gafford, PJ Washington. Et quoique, il y avait déjà des rumeurs, il me semble, sur PJ Washington à Dallas au moment de la free agency. Mais je pense que c'est des moves que tu aurais pu faire cet été et que tu fais à la deadline, parce que tu te rends compte que les moves que tu as fait cet été, à savoir Grant Williams, qui est principalement l'aveu d'échec de l'intersaison, ne marche pas.
C'est ça, j'ai été très dur. La seule chose peut-être positive, c'est que certes, alors oui, il y aura la question à plus long terme, mais ça, c'est un truc qui sera débattu une prochaine fois. Il y a peut-être cette idée de tu as transformé des échecs en des paris qui ont une vraie potentialité. Moi, je pense juste que l'horizon des possibles de PJ Washington, il y a beaucoup de versions, en fait. Et que genre, on n'est peut-être pas assez préparé à la version où il ne met pas à 3 points et il peut pas, et il pose des problèmes en termes de je sais pas, de fit. Bref.
Ouais, bah ça fera Dallas comme d'habitude, j'ai envie de te dire. En final, ça changera pas grand-chose.
Non, mais après, c'est quand même mieux d'avoir de la verticalité avec Daniel Gafford et PJ Washington quant à Luka Doncic, qui est le joueur le plus doublé, trappé de toute la NBA, que d'avoir Grant Williams. Mmh. Parce que dans tous les cas, même si PJ Washington met rien dedans à 3 points, ça changera pas tant que ça de Grant Williams. Donc, finalement, au moins, t'as de la verticalité avec ce joueur.
Mmh. Puis, il y a des fois des petits embryons de passe de... Mais je pense que... Plus que le joueur avec lequel je suis, plus qu'être le joueur avec lequel je suis le moins d'accord par rapport au consensus, c'est peut-être pour moi un des joueurs les plus théoriques de la NBA, en fait. J'aurais dû le dire autrement.
Sur l'échelle du John Collins.
Il est très, alors, historiquement, chez Dunk Hebdo, il y a quelques années, le joueur théorique par excellence, c'était Miles Turner, mais je pense qu'il a passé ce stade. Je pense que PJ Washington est pas très, très loin maintenant. On enchaîne, parlons des Knicks. Ah, il faut en parler en bien, du coup. Adrien était pas là la semaine dernière, donc. Parlons des Knicks. Leurs fans sont persuadés qu'on avait une dent contre eux, alors qu'ils n'étaient juste pas bons pendant plusieurs années.
Alors, là, c'est juste Madiane.
On le dit. C'est juste. On va parler des Knicks qui, du coup, c'était une partie du trade vis-à-vis de Détroit, qui ont maintenant dans leur effectif Bojan Bogdanovic et Alec Burks. Deux trades vraiment appréciés globalement par le consensus. T'en penses quoi, Adrien? Est-ce que tu as été charmé par ces deux trades, ce trade pour amener ces deux joueurs?
Oui, c'est vrai, c'est un seul et même trade. Alors après, moi, je suis supporter des Bulls, donc forcément, l'affect avec les Knicks, c'est pas le plus grand. Non, mais en toute objectivité, justement, moi, j'en parlais sur Twitter cette semaine. C'est vrai que ça m'embête presque de le dire, mais c'est vrai que ça bosse bien du côté des Knicks là dernièrement. Après, moi, je suis un peu entre les deux sur le choix que font les Knicks. On est sur, bon, cette saison, on est sur un all-in pour faire une perf en play-off. Par rapport à son niveau, ça va être relatif, donc potentiel, allez, si tout se passe bien, allez, peut-être une finale de conf, ça va être assez compliqué de faire un peu mieux. Tu décides de continuer dans cet esprit de lâcher, entre guillemets, certains assets futurs dans une volonté de rester bon et de t'ouvrir des options à court terme en rajoutant, donc, Bojan Bogdanovic, Alec Burks, donc des profils de scoring différents, d'options différentes, peut-être stratégiques, en tout cas sur les ailes. Après, voilà, ça fait suite au trade de d'Oji. Ça fait sens, évidemment. On parlait de joueurs dont la réussite à 3 points peut aussi décider quelques séries de playoffs. Je pense que dont Teddy Vincenzo, on pourra le mettre aussi dans cette histoire, parce que ça se passe très très bien dernièrement. Ça bosse bien du côté des Knicks. Tu veux faire une bonne perf, continuer de gagner. Tu as Jalen Brunson. Je pense que c'est ça aussi la grande réussite des Knicks. C'est Jalen Brunson, ce qui fait que une fois qu'il faudra faire le choix suivant, parce que a priori, même si là ils sont c'est séduisant. Il y a un projet, ça joue au basket. A priori, c'est pas une équipe qui serait contender en l'état avec ce corps-là. Donc, j'ai l'impression que surtout, tu récupères des joueurs pour montrer ton équipe et peut-être ensuite être le plus attractif possible, devenir enfin ce que les fans des Knicks vendent depuis des années alors que ça travaillait moins bien avec des Photoshop toujours plus incroyables les uns que les autres. Peut-être que la prochaine fois, tu vas pouvoir associer quelqu'un d'autre autour de Brunson. C'est toujours la question Randall. En tout cas, si c'est juste le move Bojan Burks qui était quand même ta question, moi, je trouve ça plutôt intéressant. Ça change pas la face du monde. Disons que tu t'ouvres des options supplémentaires sur les ailes.
Je deviens aigri, en fait, parce que c'est encore un move que je vais critiquer. Non, c'est un bon move, mais c'est un move qui m'interroge vis-à-vis de Tibbs, en fait. Autant Alec Burks, je me dis, il va le faire jouer. Bucket Getter, il a... Mais Bogdanovic, dans l'espèce de... Je sais pas, d'osmose qui a été créé, tu l'as dit, Constant, et je vais aller vers toi. Bogdanovic, c'est pas le maître défensif qu'on voudrait peut-être du côté d'Enix. Quoi. En tout cas, comme l'idée de Thibodeau d'il y a un an, c'est-à-dire je fais jouer que les mecs qui savent défendre.
Oui, déjà, lorsque j'avais fait l'épisode sur Enix, j'avais dit que leur second ball handler qu'on avait un peu critiqué, enfin en tout cas que le Bolender en sortie de banc, qui leur manquait, il était là jeudi. Alors je pensais pas que ça allait être Alec Burks, qui fait son retour d'ailleurs, puisqu'il était au Knicks il y a de ça 2 ans. Effectivement, c'est un move. En fait, le truc des Knicks, c'est que tu sens que, comme l'a dit Adrien, il y a un peu une opération séduction, voilà. Peut-être qu'effectivement, il y aura des maillots LeBron James floqués derrière. Enfin, il y aura le nom James floqué avec Knicks devant. Peut-être, on ne sait jamais. Non, ça, je ne me tapez pas dessus, les fans des Lakers. Vous ne rêvez pas, les fans des Knicks. Mais toujours est-il qu'ils ont quand même solidifié leur rotation pour les playoffs avec Alec Burks et Bogdanovic. C'est-à-dire que ce que tu lâches, c'est, globalement, dans la rotation, c'était Quentin Grimes. Et encore, Quentin Grimes qui avait débuté la saison titulaire et qui se retrouvait sur le banc. Après, les Knicks, c'est quand même très court-termiste. C'est-à-dire que il y avait ce running gag des Knicks qui ne prolongeait pas les joueurs au-delà de leur contrat rookie. Sur tous ceux qu'ils ont draftés, le seul qui est encore là, c'est Miles McBride. C'est-à-dire que RJ Barrett est parti, Quentin Grimes est parti, Emmanuel Quickley est parti. Ils ont quand même 3 joueurs qui étaient importants dans leur run de playoff l'an dernier qui ne seront pas là en avril. C'est quand même un truc à noter. Donc oui, ils ont solidifié, ils n'ont pas lâché de first round quand même. Ça, il faut en parler parce que les Knicks sont pléthore de first round. Potentiellement, si jamais il y a quelqu'un qui pourrait être disponible à l'été, ils ont encore cette capacité. Alors après, c'est des first round qui sont quand même assez pourris hein, parce qu'il y a celui des Pistons, celui des Wizards, mais avec des protections tellement lourdes qu'ils ne verront pas les picks avant 2030. Donc voilà, c'est quand même à méditer, mais c'est une meilleure équipe, je pense, que ce qu'elle était avant la deadline. Mais effectivement, il y a des interrogations et je pense que Alec Burks et Bogdanovic, c'est des joueurs qui passaient un certain stade d'avril et surtout passaient un certain stade de mai. J'ai des gros doutes sur leur capacité à rester sur un parquet. Je conclurai juste, sachant que j'ai déjà pas mal parlé, en disant qu'on en a parlé en off, les fans des Knicks. Donc Teddy Vincenzo, là, il est à 42% sur 14 tentatives à 3 points. Est-ce que vous voyez venir le don de Teddy Vincenzo à 28% à 3 points à la mi-mai? Préparez-vous, parce que celui-là, je le vois venir. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite pas, mais je le vois venir.
De faire un power ranking des pourcentages les plus importants et PG Washington, don Teddy Vincenzo, Josh Giddey serait dans le top 10, je pense, effectivement. Alors c'est très intéressant ce que tu as dit du côté des Knicks qui sont assez court-termistes et qui gardent pas leurs joueurs parce que ça m'a fait penser aux Bulls et par rapport à l'idée que faut jamais oublier que l'environnement de ton GM a beaucoup d'influence. Dion Rose, c'est un agent. Karnišovas, il s'est fait dans le scouting. Tu vois, je pense que les approches, les hommes sont différentes de par le background qu'ils ont vis-à-vis de ça. Ce que je rajouterais, oui, c'était mon grand problème et je salue Amine aussi parce qu'on était d'accord là-dessus quand le trade est arrivé, c'est je me demande, oui, Quentin Grimes ne jouait pas, mais est-ce que tu as obtenu 2 joueurs qui joueront dans le match 5 du deuxième tour des playoffs, en fait? C'est juste ma question. Parce que si tu les... Je pense qu'il va faire jouer Burks dans le côté un peu micro-ondes ou peut-être capacité à dribbler, peut-être marquer, bref. Mais je suis assez pessimiste là-dessus. Et du coup, le trade est moins... C'est moins un trade. Autant il a été beaucoup applaudi, celui-ci, autant moi, c'est plutôt l'intégralité de ce qu'ont fait les Knicks un peu avant. Je tiens à souligner plus que ce trade-là en particulier. Si vous n'avez rien à rajouter, les gars, on va continuer à avancer, à parler des Sixers. Alors là, c'est un peu la soupe à la grimace. En plus, on a regardé leur calendrier avant d'enregistrer. Préparez vos casques parce que ça risque d'être un peu compliqué, fan des Sixers. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Les Sixers ont accueilli Buddy Hield, Cameron Payne et Kyle Lowry. Je vais le résumer comme ça. On est au moment du podcast où je vous avoue que tous les échanges en particulier, ça devient un petit peu compliqué.
Il a signé Kyle Lowry?
Oui, oui. Ils vont le buyout. Chez eux. Ouais. Vous remarquez qu'on est donc à la période où c'est un peu flou, même pour nous.
il semblait pas que c'était officiel.
J'ai vu qu'il a été buyout, je savais pas si c'était déjà fait.
Alors, c'était dans le même tweet de Shams, les gars. Il va aux Sixers. On va faire une vérification en direct pendant qu'en pleine panique, je lance Adrien. Qu'est-ce que tu penses des Sixers?
Les Sixers, voilà, on a identifié les problèmes.
Oui, ça a été confirmé par Wash. Il vient bien aux Sixers. Allez-y, continuez.
Allez, c'est parfait. Donc, les Sixers, on a identifié les problèmes structurels qu'on pouvait avoir depuis l'absence de Joel Embiid. Grosso modo, c'est ça la conclusion. On a un problème notamment de main malgré l'extraordinaire saison de Tyrese Maxey, qui est donc le favori pour le MIP, on parlait toujours de Coby White. Là, on arrive au point où, et on ne peut pas lui en vouloir, hein, ce n'est pas du tout une attaque envers Tyrese Maxey, mais sans Joel Embiid, on se rend compte que ça fait un énorme costume à mettre sur ses épaules, et c'est très compliqué. Donc on a un problème de main qui n'était pas forcément résolu par un Pat Beverly, par exemple, et donc on a identifié le fait que Kylori était potentiellement disponible. On l'a récupéré pour essayer de combler ces petites brèches en l'absence de Joel Embiid. En ce qui concerne de l'histoire, de, enfin l'histoire du trade de, pour Buddy Hield, Buddy Hield qui vient pour faire l'éternel JJ Redick, Seth Curry, voilà, joueur pour aller prendre des écrans à l'opposé.
Marco Bellinelli.
Voilà, Marco Bellinelli, ça marche aussi. Prendre les écrans à l'opposé pour aller mettre des trois points une fois qu'on aura récupéré Joel Embiid. Donc, du côté des Sixers, moi surtout, ce que j'ai envie de noter de tout ça, c'est que, et on en a parlé, je crois que c'est Ben, toi, qui le répétait, peut-être que Joel Embiid a gagné du crédit par rapport au prochain DH20 avec tout ce qu'on a vu. Maintenant, ça ne change pas la face du monde. Je pense qu'on est toujours dans cette idée d'espérer de retrouver Embiid en forme pour les playoffs et de faire le run le meilleur possible avec le meilleur Embiid qu'on puisse avoir.
Je suis en train de me dire que le concept des parties, je l'ai complètement abandonné. Là, on est sur les petites retouches du coup par rapport au parc du podcast. Constant, t'as pensé quoi de cette deadline des Sixers?
Je pense que je vais, sans vouloir trop annoncer, mais je pense que je vais faire le porte-voix d'Amine sur ce que je vais dire. Josh Harris est content, les Sixers sont passés sous la taxe, voilà, avec leur move. Après, oui, effectivement, Tyrese Maxey, malgré toute l'affection que j'ai, c'est difficile, en fait. C'est peut-être un All-Star de circonstance ou un All-Star de parce que tu joues avec un MVP à côté, on va dire. Mais il n'y a pas que la blessure de Joel Embiid. Il y a D'Antoni Melton qui était bon sur le début de saison, qui commence à être absent depuis un sacré paquet de temps. D'ailleurs, c'est aussi une des raisons pour laquelle tu vas aller chercher Kyle Lowry. Du côté des Sixers, en fait, c'est que toute ta saison bascule au moment où soit Joel force sur sa blessure, soit où c'est le moment où Jonathan Kuminga décide de lui faire un plaquage sur le ménisque. Enfin voilà quoi. Donc à partir de là, tout bascule dans la saison des Sixers. C'est des moves où on sait que Philly, avant même que la saison débute, ils étaient très axés sur la free agency 2023. On va dégager du cap, un maximum de cap. On va pas prolonger Tyrese Maxey parce que ses capoles sont peu élevés, donc potentiellement ça nous laisse de la flexibilité. Ce genre de move, pour moi, ça reste dans la même optique, c'est-à-dire que oui, Buddy Hield, c'est un joueur effectivement que t'as envie d'avoir à côté de Joel Embiid, mais c'est aussi un joueur qui sera free agent à l'été prochain, donc un joueur qui sera pas dans ton cap. Donc oui, c'est quelque chose où c'est un peu du wait and see, on va dire. Est-ce que Joel reviendra? On a fait quelques moves d'ajustement pour potentiellement essayer de faire quelque chose s'il venait à être là. Mais c'est difficile du côté de Philly de voir quelle est la ligne directrice de ce qui a été fait, autre que on reste focus sur la Free Agency 2024 et on espère potentiellement que Joel revienne pour deux semaines avant les playoffs ou potentiellement pour le premier tour.
Pas mieux ajouter à parce que là, je vois le chrono, je me dis, on a 15 équipes encore à faire. Enchaînons sur les Celtics. Les Celtics, du coup, transition, Sixers Celtics, même pas fait exprès. Jared Springer, du coup, qui est arrivé du côté des Celtics, et les Celtics, il y a quelques jours aussi, qui avaient observé l'arrivée de Xavier Tillman. Par rapport aux deux trades, alors, Jared Springer, j'ai trouvé l'explication. Alors oui, il y a la notion...
Jaden.
Je suis d'accord. De Plétine.
C'est Jaden Springer. C'est pas Jared Springer, c'est Jaden Springer.
Alors, pour vous dire, j'ai devant moi, j'ai pas mis mes lunettes, et donc du coup, j'ai cru que le D était un L. Je suis vraiment en fatigue. Jaden Springer, du coup, par rapport à l'explication de Daryl Morey, je l'ai trouvé très très intéressante. Alors certes, oui, il y a le fait d'économiser 4,3 millions de la taxe, du Harris, etc. Mais par rapport à l'idée que le joueur était peut-être pas très bon pour aider, bref, qui pouvait pas aider à l'instant T. Pour ce qui est des Celtics, c'est un pari. Je pense qu'il n'aidera pas cette équipe dans la visée du titre cette saison en playoff, où je serais très étonné. Ou alors, il y a vraiment une erreur de mise en avant des talents du côté de Nick Nurse. Pour ce qui est Xavier Tillman, ça leur donne une option à l'intérieur. Non, je pense que c'est deux moves à la marge qui pourraient être utiles pour les Celtics. Je vais y arriver. Mais encore une fois, je pense qu'à l'image de cette trade deadline, ce ne seront pas des moves qui, dans 8 semaines, changeront le destin d'une... je n'ai plus de voix. Changeront le destin d'une série de playoffs. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Non, après, c'est intéressant quand même, je trouve, de voir la différence de discours entre Brad Stevens et Daryl Morey sur Jaden Springer, justement, T'en as un qui dit bon, de toute façon, peut-être que le second tour il sera plus utile qu'on va drafter. Et il y en a un qui fait moi je le trouve intéressant ton joueur, donc en fait je vais le récupérer. On a des visions différentes du joueur. Qui aura raison dans le tas, je sais pas, mais Daryl Morey s'est déjà trompé sur certains de ses talents. Finalement, on va pas parler d'Isaiah Joe, mais finalement le seul talent qu'il a gardé, c'est Paul Reed. Et finalement, Paul Reed est un peu décevant cette saison, voire même très décevant cette saison. Après, il est dans un costume qui est pas facile actuellement, qui est le costume de Joel Embiid, mais même en backup, c'était pas non plus extraordinaire. Voilà, du côté des Celtics, c'est de la viande. Ils ajoutent de la viande. Je pense que ils se sont dit non, mais c'est pas péjoratif de dire qu'ils ajoutent de la viande. Mais avec Xavier Tillman, ils voulaient un joueur défensif capable de suppléer potentiellement si tu voulais Al Horford venait à se blesser ou. Si tu voulais une solution supplémentaire à l'intérieur que tu n'allais pas forcément jouer. C'est-à-dire que ce que je veux dire pour Boston, et ça va être très rapide, c'est que Boston, ils sont tellement stacked que les deux moves qu'ils ont fait, c'est des moves de dire « Ok, les joueurs joueront peut-être pas en play-off, mais si potentiellement il y a un blessé, ces joueurs, on les aura sur notre banc. »
Ouais, moi c'est ce que j'avais noté. Alors j'avais pas noté avec la métaphore de la viande, mais j'avais écrit « Ajouter des joueurs jouables ». En fait, la rotation des Celtics paraît très très courte, très top heavy, comme on dit. On sait qu'il y a 6-7 joueurs qui vont jouer 8. En play-off, les autres un peu moins. Là, tu ajoutes soit potentiellement, comme Constant l'a très bien dit, Tillman qui pourrait peut-être voir le terrain, soit pour Springer, surtout un gars qui va pouvoir jouer, prendre quelques minutes pendant la saison régulière, où là, c'est un peu plus simple pour lui de voir le terrain et pour soulager. En vue des playoffs, les minutes de tes joueurs principaux. Voilà, on ajoute des minutes jouables de joueurs NBA qui peuvent voir le terrain en saison régulière avec un peu de chance ou conditions défavorables, on va dire, en playoffs. Mais voilà, on a ajouté des minutes.
Jaden Springer, il joue en playoffs pour vous ? Autant que Tillman, pour moi, oui.
Alors, Springer, non. C'est peu probable, mais...
Ok.
Non, mais au cas où, on prend un exemple. Au cas où Peyton Pritchard se blesse... Eh ben, tu te dis, t'as un joueur que c'est le next man up. Pour moi, c'est le remplaçant du remplaçant. Les deux moves qu'ils ont fait, c'est presque deux moves de remplaçant du remplaçant. Parce que de toute façon, quand t'es contender et que t'as l'effectif de Boston, t'as pas tant de besoins à pallier que ça. Et du coup, c'est plus des moves où tu prévois qu'il puisse se passer une catastrophe en playoff au niveau des blessures et où tu te dis, j'ai ma soupape de sécurité.
Enchaînons. Si on parlant de soupape de sécurité, parlons d'une équipe qui vise aussi le titre, mais qui est peut-être un peu moins fringante que les Celtics actuellement, ce sont les Suns. Alors que ma voix diminue au fil et au fur et à mesure du podcast, Adrien, je te surveille pour que tu prennes le relais si le besoin en est. Du côté des Suns, ce qu'il faut retenir, c'est l'arrivée de Royce O'Neal et de David Roddy. Je sais pas qui veut partir là-dessus, mais est-ce qu'on admet à demi-mot que certaines des tentatives de l'été sont un peu ratées. Parce qu'on renvoie quand même Keita Bates-Diop, Watanabe, etc. Certains des joueurs qui avaient été. Donc certaines des tentatives de l'été, on avait dit qu'en gros, ils lançaient des petites fléchettes. Il y en a peu qui ont atteint la cible quand même.
Ouais, c'est ça.
Moi, honnêtement, je vais pas faire très très long. Je n'ai pas grand avis là-dessus. Hein. Excuse-moi. De toute façon, je vais pas faire très long cette fois-ci. Comme tu l'as dit, Ben, c'est-à-dire qu'une fois qu'on avait le 3 stars à Phoenix, on le savait tous, enfin tout le monde l'avait observé de cette manière-là, on a essayé de remplir les cases avec les joueurs qu'on pouvait, de faire certains paris, certains n'ont pas fonctionné comme voulu, on tente d'aller chercher un ailier comme Royce O'Neal qui peut contribuer, qui est peut-être une bonne chose hein, pour eux, mais pour moi ça ne change, en fait, c'est un trade, on est dans les ajustements comme on a dit une nouvelle fois, qui ne change pas grand-chose aux Suns qui vivront et qui mourront avec leurs trois joueurs majeurs, si jamais, évidemment, et on le souhaite, les trois sont en santé et jouent les grosses minutes. Derrière, c'est pas forcément quelqu'un qui va beaucoup jouer, Royce O'Neal, peut-être un petit peu. Bon, voilà. Pour moi, c'est un trade plus anecdotique qu'autre chose, qui ne change pas la face, en tout cas, le visage, la direction de ces Phoenix Suns.
Ça change pas la face des Suns, mais je trouve pas ça inintéressant. Effectivement, quand tu signes que des minimums vétérans, c'est un peu tu lances une pièce en l'air et ou tu lances un truc sur le mur et tu vois ce qui colle. Donc forcément, il va y avoir des joueurs où ça ne va pas marcher. Je pense que il y avait des joueurs qui étaient un peu plus prévisibles que ça n'allait pas marcher, qui étaient à Béziop, Metu, Watanabe, ça avait bien marché au net. Et finalement, il y a une perte de confiance totale dans le tir, donc c'est plus difficile. tu parlais du fait qu'ils étaient les Suns étaient moins fringants que les Celtics. Je trouve que bon là cette nuit ils ont perdu sur un buzzer de Stephen Curry. Ok, mais je trouve qu'ils commençaient à trouver un rythme et que finalement les trois dernières semaines de Phoenix, ça que tu commençais à trouver un semblant de rythme de croisière. Ils étaient finalement un peu sur les temps de passage de la fanbase des Suns, notamment voilà, je salue Grégoire du podcast Valeo, pour l'objectif c'était de trouver un rythme de croisière à des automatismes d'ici le All-Star Break, ce qui finalement ils sont en train de trouver, que ce soit dans le classement où ils sont pas si loin que ça finalement d'avoir l'avantage du terrain, plus le fait que ça commence à avoir une vraie synergie entre les quatre plus Nurkic plus Grayson Allen. Moi Russell Westbrook, c'est pas un trade qui va chambouler le visage de la conférence Ouest, mais je pense que c'est un bon ajout quand encore une fois c'est des joueurs que tu transfères alors que c'est des joueurs qui n'auraient pas vu le terrain en playoff, là où à Russell Neal, son côté un peu connecteur, pas forcément besoin de la balle, et qui peut potentiellement être un joueur que tu peux envoyer sur certains attaquants, notamment à l'aile, pour reposer potentiellement du KD ou du Devin Booker, ça peut être intéressant à voir ce que ça va donner, mais ça peut être intéressant, ça plus le fait que c'est quand même bien que les Suns n'aient pas tradé pour Miles Bridges. Voilà, je casse ça en passant, mais il y avait pas mal de rumeurs. Finalement, c'est bien qu'une équipe n'ait pas décidé de faire un trade pour Miles Bridges.
Je pense que c'est plutôt Bridges qui a pas voulu partir que l'inverse. Mais ça, c'est un détail. Je pense que ça a été expliqué maintes et maintes fois, et il a pas d'intérêt. Comme c'est un joueur qui sera free agent, il avait pas d'intérêt. J'ai pas envie de parler de lui, hein, mais qu'il avait pas d'intérêt à partir en fait pour une équipe où il aura un usage ridicule. Bref. Enchaînons, Constant. Je reste avec toi. Ok, ici. Alors, je veux qu'on parle de cette affaire, Constant. Donc, il s'est passé ce truc assez paranormal où, du coup, les Mavs, qui a beaucoup choqué Tom, notre expert CBA international mondial, qui du coup, les Mavs, ils ont fait un trade. En tout cas, le trade a été annoncé par Wojnarowski, alors que l'asset que renvoyaient les Mavs n'était pas encore actuellement en possession des Mavs. Donc, les Mavs ont fait un échange avec OKC. Alors, essayons de l'expliquer simplement. Le Thunder a obtenu un swap. C'est-à-dire qu'en fait, le Thunder a obtenu quelque chose qui pourrait se matérialiser comme rien du tout. Parce qu'en fait, c'est le droit de faire un échange avec donc les Mavs en 2028. T'as pensé quoi de cet échange-là? Avant de parler, bien évidemment, de l'arrivée de Gordon Hayward, qui est la deuxième chose à mentionner.
J'ai pas compris. Alors déjà moi ça m'a fait tilter effectivement le. Alors c'est Vosges annonce le trade et Mark Stein ensuite dit que les Mavs sont en train d'essayer de trouver les assets pour pouvoir faire le trade. Ça c'est incroyable. C'est à dire que Nico Harrison il a appelé. Mince, j'ai oublié le nom du GM des Wizards. En plus c'est un ancien de Casey. Il a appelé. Ouais, t'inquiète, je vais les trouver, les assets. Pas de soucis, je vais les trouver. Oui, bah c'est comme, t'es comme moi, Ben, tu l'as sur le bout de la langue, mais je le retrouve plus. Le Will Dawkins. Il semble que c'est Will Dawkins.
Ah.
Mais non, j'ai pas compris, en fait, pourquoi Sam Presti. C'est-à-dire que Sam Presti, il a plus utilisé ses assets pour renforcer les Mavs que pour renforcer sa propre équipe à la trade deadline. Ça, c'est quand même incroyable. Je comprends pas, en fait, pourquoi t'as été renforcé un prétendant direct, une équipe que tu peux potentiellement affronter au premier tour de playoff pour avoir un swap 2028. Alors oui, le swap, il est apparemment, il est non protégé, c'est-à-dire qu'il a full, enfin, il a aucune protection. Donc, ça peut donner un truc où Luka Doncic n'est plus là et du coup, OKC se retrouve avec un très bon pic. Sauf que voilà, c'est Guillaume dans je ne sais plus quel podcast où il avait parlé du fait que les swaps c'était très surévalué. Et je pense que sans trop rentrer dans le détail maintenant, parce qu'on parlera de Gordon Hayward après, c'est un move qui selon moi est fait un peu trop long terme et où ça me prestige, je pense, soit n'a pas envie, soit sous-estime la qualité de son roster cette saison.
Bah, en fait, moi, mon problème avec ce swap-là, oui, et l'idée de laisser un contender, mais une équipe, un concurrent direct, une équipe que tu pourras aller avec toi en playoff, c'est peut-être l'idée que, effectivement, Presti voit ça comme une opportunité de marché, parce que c'est une opportunité de marché, mais, alors déjà, pour revenir sur l'idée des swaps, faut pas oublier que du coup les équipes s'adaptent en fait quand elles ont des swaps. Chaque année, nous on le dit même dans nos analyses, des fois ah cette équipe-là a pas intérêt à mal jouer cette année parce qu'elle a un swap, etc. Enfin bref, passons. Et effectivement, il y a cette sensation que plus que des opportunités de marché, maintenant OKC aurait peut-être dû plus essayer de. Alors j'étais contre ces théories comme quoi OKC devait faire un gros trade, mais qu'on est peut-être plus au stade des opportunités de marché du côté d'OKC. Adrien, t'en as pensé quoi? Du coup, et de Gordon Hayward, le joueur Schrödinger, big up à Amine.
Oui, bon bah sur le pic, j'ai pas plus plus à penser que ce qu'a dit Constant sur Gordon Hayward. Alors Gordon Hayward, c'est effectivement, tu l'as très bien dit, le joueur de Schrödinger. Ce qui prête à sourire, c'est les highlights qu'on a vu passer un peu partout sur Twitter, qui sont de Gordon Hayward dans un maillot du Jazz face à Kobe Bryant. Et il y a des joueurs, je sais même plus les noms, mais ça m'avait fait tuer de rire quand j'avais. Quand
c'est des highlights qui ont été effectués sous François Hollande.
Oui, non, mais voilà. Oui, voilà, exactement. Mais 95% des gens qu'on voit dans ces highlights ne sont plus en NBA et depuis un brave moment, ils sont bien chez eux, ils ont eu le temps de prendre du poids, tout ce que tu veux. Donc forcément, peut-être que c'est un peu exagéré à ce niveau-là. Le joueur de basket théorique peut avoir de l'intérêt, mais je vais plutôt laisser Constant en parler. A priori, on est quand même plus sur quelque chose de financier que sur quelque chose de basket. Après, voilà, si Hayward joue, si un bon Gordon Hayward joue, c'est pas un joueur inintéressant. Après, c'est peut-être pas voilà. On ne retrouvera pas le highlight de Gordon Hayward qui met des paniers sur Kobe Bryant, quoi.
Et parle-nous de Misic aussi, du coup. Parle-nous d'OKC, vas-y, allez.
ça tombe bien, en plus. Ça fait, les deux derniers lives de We Are Thunder, j'étais pas présent, donc je peux me lâcher un peu sur OKC. Non, bah alors déjà, Misic, je suis désolé, ce qu'il a montré là sur le match qu'il a joué avec Charlotte, il l'a pas montré à OKC, hein. Donc, faites pas croire que, faites pas croire que, pourtant, Misic a eu des minutes, hein, mais il était pas spécialement bon, du côté d'OKC, donc c'était pas une grosse perte. Après, t'as parlé, Ben, du fait que OKC, devait pas faire un gros trade. Moi, je demandais pas un gros trade. Je demandais, tu vois, genre, quitte à renforcer un concurrent direct, quitte à signer Bismack Biyombo, parce que OKC a signé Bismack Biyombo. Ça change tout le visage de la conférence Ouest. C'est-à-dire que avant, OKC n'avait pas de vétéran à l'intérieur pour prendre des rebonds et pour défendre sur Nikola Jokic. Maintenant que le Thunder a signé Bismack Biyombo, ça y est, là, on a le Jokic stopper, le Savonis stopper, vous inquiétez pas. Non, mais blague à part, si tu voulais vraiment un peintre en attaque qui prend des rebonds et qui défend au poste, bah, pourquoi t'es pas allé prendre Gafford directement? Peut-être que, voilà, Sam Presti, il voulait pas s'engager sur un intérieur qui avait plusieurs années de salaire. Et en gros, avec le trade de Gordon Hayward, qui, sur le papier, Gordon Hayward est un joueur qui colle pas mal à ce que veut faire OKC, c'est-à-dire que c'est un porteur de balle, un connecteur, un mec qui peut prendre des rebonds, un mec qui peut être un porteur de balle secondaire ou tertiaire si jamais tu l'utilises avec la seconde unit. Faudra voir comment il sera utilisé, faudra voir s'il sera en santé, s'il est en santé, est-ce qu'il prend les minutes de Josh Giddey, qui est vraiment dans un stade absolument infect, là, de basketball. Je pense que ça s'est vu lors du match face aux Mavs. Donc voilà, on va voir. Mais je pense que surtout que le move, selon moi, même s'il y a un petit espoir que Gordon Hayward soit impactant en playoff, pour moi, l'une des finalités, si ce n'est la principale finalité de ce move, c'est de se débarrasser du contrat de Misic qui était 7 millions garantis l'été prochain, se débarrasser du contrat de Tremaine qui était 5 millions garantis l'été prochain, plus le contrat de Davis Bertans qui était garanti à hauteur de 5 millions mais qui avait une player option ou une early termination option. En gros, OKC a dégagé du cap, full cap pour l'été prochain. OKC, selon les pics de draft, va avoir à peu près une trentaine de millions de cap space. Alors, ça ne veut pas dire qu'OKC va signer des free agents, hein, parce qu'OKC ne signe aucun free agent dans son histoire. Mais on va voir ce qui va se passer. Je suis dans une période, moi, où OKC me frustre un peu, hein, on va être honnête, que ce soit dans le contenu, que ce soit dans certaines décisions qui ont été prises, notamment vis-à-vis de Josh Giddey. Et on en parlera cet été, on en parlera quand on fera le post-mortem sur OKC. J'attends presque plus l'été qu'une série de playoffs, parce que selon moi, l'été prochain, ça va montrer à quel point Sam Presti est sérieux dans son projet. C'est-à-dire que il a fait, selon moi, le plus difficile, c'est d'avoir ses trois meilleurs joueurs. Maintenant, il faut qu'il réussisse à un truc où il avait déjà échoué sous Ross et KD, c'est entourer ces joueurs-là. Et là, je l'attends vraiment au tournoi.
Un cri du cœur.
Oui. J'aurais pas grand-chose à ajouter, mais sachez juste que je suis allé chercher la vidéo. Là, c'est très, très rigolo. Hein. J'ai vu même Paul Pierce dans la vidéo face à Gordon Hayward. Paul Pierce, Eric Bledsoe. Je vois démarrer Carroll, Zach Randolph.
Mais Paul Pierce, sous quel maillot? Parce que c'est ça, la vraie.
Clippers.
Les Clippers.
Ah, ouais. Ouais.
Mais en plus, alors, je rajoute un dernier truc. Puisqu'on parle d'OKC, puisque j'ai parlé justement du fait que OKC avait 30 millions de cap space, OKC, hormis si Utah décide de tanker ce qu'ils ont fait l'an dernier, avec le pic des Rockets, les Rockets qui sont un peu en train de chuter, plus le pic de Utah, OKC peut avoir deux pics de loterie à la prochaine draft. Et un dernier truc que je dirais aussi quand on parlera des post-mortem, OKC a deux années de contrat rookie de Chet Holmgren et Jalen Williams sur les deux prochaines années. Ne pas faire ce qu'a fait Dallas, à savoir avoir un joueur exceptionnel sous contrat rookie pendant deux ans et ne rien en faire. Voilà.
Eh bien, en parlant de contrat rookie, Parlons des Lakers. Ça n'a pas, il n'y a pas de transition.
Du coup, je me demandais comment tu allais faire ça.
Il n'y a pas de transition. Parlons des Lakers. C'est le dernier. Je sais pas si on peut appeler ça un grand mouvement, mais du coup, Spencer Dinwiddie, qui était, du coup, qui assistait, qui se disait, est-ce que je vais à Dallas? Est-ce que je reviens à Dallas? Est-ce que je vais aux Lakers? Finalement, il viendra du côté des Lakers. Est-ce qu'on a quelque chose à dire à propos du joueur préféré de Tom?
Est-ce qu'on a quelque chose à dire? C'est-à-dire que si ça fonctionne pas bien avec D'Angelo Russell et que tu mets Spencer Dinwiddie, je suis pas sûr que ça fonctionne beaucoup mieux. Voilà. C'est tout ce que j'aurais à dire sur cette acquisition.
Je pense que Spencer Dinwiddie, il a quand même réussi, en signant aux Lakers au lieu de signer aux Mavs, il a quand même réussi à s'aliéner la Sun Fight Base qui l'apprécie un peu dans toutes les franchises par lesquelles il est passé. Non, mais du côté des Lakers, c'est plus les non-mouvements qui peuvent être dont on peut parler des Lakers que des mouvements. C'est-à-dire qu'il y a eu des grosses rumeurs sur des gens de Temeray, des rumeurs qui, selon moi, venaient plus de l'agent une réelle envie que ce soit de la part du management des Hawks de s'en débarrasser. Regardez qui leak les infos, enfin qui a leaké les infos sur des gens de Temeray. C'est globalement Chris Haynes et Shams Charania qui sont bien connus pour être des insiders plus proches des agents, notamment Chris Haynes, que des front office. Donc voilà, quand vous voyez des news sur certains joueurs, regardez la source et vous comprendrez. C'est Guillaume qui en parle souvent en disant à qui profite le fait que l'info sorte. Donc voilà, je pense que les Lakers, il y a une incertitude aussi vis-à-vis du cas LeBron James. Voilà, LeBron James, il est pas content, il fait des tweets cryptiques. Voilà, il y a peut-être les Lakers se disent envisagent un futur sans LeBron James dès l'été prochain. On va voir ce que ça va donner. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas posé au line. Oui, Dinwiddie, je vois pas tant les minutes qu'il pourra apporter avec D'Angelo Russell ou avec Austin Reeves, sachant que il a commencé à remettre les deux dans le starting five. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est plus un ajout en disant on a fait un petit ajout, mais on sait que le sort des Lakers en playoff dépendra pas de Spencer Dinwiddie, mais dépendra de beaucoup de facteurs. Et du côté des Lakers, le truc un peu embêtant cette saison, c'est qu'ils sont en course pour le play-in, alors que LeBron James et Anthony Davis n'ont jamais autant joué de matchs ensemble cette saison que depuis la blessure de LeBron à la cheville en 2021. Et ça, c'est un peu inquiétant.
Je vais rajouter juste une bêtise parce qu'on arrive à presque à une heure et demie de podcast. Mais voilà, depuis qu'il y a eu cette histoire de Dinwiddie pour rejoindre les Lakers, on a D'Angelo Russell qui vient de claquer presque 60 points de match. Donc effectivement, peut-être que c'était ça le plan, c'était mettre un peu la pression à D'Angelo Russell qui redevienne, genre comme tous ces joueurs en contracteur, qui redeviennent très très bons. Après peut-être, plus sérieusement, ce qu'on pourrait ajouter, c'est encore une fois ce souci de la signature de Gabe Vincent, qui était un peu censé être ce remplir ce rôle-là.
J'ai oublié tellement
oui,
il n'a pas joué.
Mais oui, mais c'était l'intersaison réussie des Lakers, entre guillemets, qu'on avait entendu, qui avait été assez vanté globalement, même si voilà, il y avait des limites qu'on voit maintenant cette saison. C'était notamment parce que tu avais réussi à récupérer Gabe Vincent pour remplir ce rôle du mec qui a la balle et puis qui peut mettre des tirs à côté de LeBron James, enfin ce meneur dans ce profil-là. Bon, bah voilà. Tu rajoutes Spencer Dinwiddie, du coup. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais ça semble être une conséquence de tout ça.
Eh bien, on va finir là-dessus. Constance, c'est vrai, pendant cette période de trade qui est terminée, Chris Haynes, c'est même la pravda des joueurs. Hein, c'est vraiment Chris Haynes. Dès qu'il sort. Globalement, si une info sort de
ça,
Chris
c'est
Haynes,
vu, hein.
c'est les joueurs. Si une info sort de Walsh, c'est plutôt les front office. Si une info sort de Kevin O'Connor ou Jack Fisher, c'est faux. Voilà, c'est un peu en gros ce qu'il faut vous dire. C'est plutôt voilà, c'est un petit peu la cartographie. Non, mais en tout cas, c'est des trucs à savoir qui sont parfois assez intéressants de voir qui sort l'info. Et surtout quand c'est parfois les journalistes, les beat writers locaux, etc. C'est toujours quelque
Après,
chose
on a quand même eu Pat Bev qui a battu tous les insiders sur le breaking news du trade de Pat Bev. Donc voilà, faut saluer Pat Bev.
Ce qui est fort parce que plus d'une fois, les joueurs avouent avoir appris le trade via Woj ou Shams Charania. Mmh. Donc, ça veut dire que c'est... Il a dû prendre le téléphone à la seconde où il a eu l'info du coup. Eh bien, on va conclure là-dessus ce gros bilan de la trade deadline. On l'a dit, pas de mouvement majeur, mais une constellation de petits mouvements qui, du coup, auront peut-être de l'importance. SO, le shoot de PJ Washington. Peut-être que ça va jouer beaucoup en playoff. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. Et puis, traditionnellement, la trade deadline et le All-Star Game, c'est surtout le moment de la saison. On commence à, on va dire, on va plutôt réduire le nombre d'équipes qu'on regarde. va abandonner peut-être petit à petit certaines équipes pour se concentrer sur les grosses cylindrées. Donc on entame cette période de l'année. On vous remercie de nous avoir écoutés. Merci Adrien, merci Constant. Suivez-nous comme d'habitude sur les plateformes de podcast et sur YouTube également. Et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast. Salut.
Merci Ben.
Salut. Salut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.